Bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui arrivent. On continue donc cette journée par un deuxième moment consacré à la jeunesse, ses révoltes et ses aspirations politiques. Un moment dans lequel tout d'abord Gérard Mauger, directeur de recherche au CNRS, prendra la parole. Alors, il avait prévu de nous parler des conditions d'accès à la parole politique chez les jeunes des classes populaires et puis il m'a indiqué que finalement il souhaitait plutôt traiter, analyser la question des classes populaires, intitulant son intervention « Les classes populaires de Marx à Bourdieu ». Et donc après ce grand programme... donc pendant une vingtaine de minutes, nous donnerons la parole, alors par ordre d'apparition à l'écran, à Romuald Baudin, docteur en sociologie, Bertrand Gé, professeur à l'Université de Picardie, et Jérôme Camus, docteur en sociologie, sur la question de la politisation étudiante et les espérances démocratiques à partir de leur enquête, une enquête collective sur le mouvement étudiant de 2006 contre le CPE. Voilà, en guise d'introduction, je donne directement la parole. Alors ensuite, il y a bien sûr un temps de questions, un temps de discussion, de débat. Et je donne directement la parole donc à Gérard Mauger.
Merci Hélène. Bon, je suis vraiment confus hein, de ne pas avoir été capable de satisfaire à ce que j'avais annoncé. Ça va me rassurer, je vais donner quelques excuses, enfin, ce qui sont réelles. Hein. C'est que j'ai commencé à réfléchir au sujet, les conditions sociales d'accès à la parole politique des jeunes des classes populaires, sur la base de ce que j'ai fait récemment, en tout cas. Donc essentiellement sur les jeunes des cités, comme on dit aujourd'hui, sous leurs diverses formes. Bon, plus un travail que j'ai fait sur les meutes de novembre 2005, etc. Bon, j'ai commencé à faire ça. Et puis alors j'avais le sentiment un peu embarrassant, enfin, en tout cas pour moi, de radoter, de dire, bon, j'ai déjà dit ça, même ici, je crois que je suis venu parler des meutes de novembre 2005, je me disais, merde, ils radotent, bon, à mon âge, c'est grave de radoter. Bon, voilà. Et d'autre part, bon, j'avais le sentiment aussi que sur ce sujet-là, focaliser l'attention sur les jeunes des cités, comme s'ils étaient, et en tout cas même sur certains jeunes des cités, pas tous, hein, comme s'ils étaient le tout des jeunes des classes populaires, c'était politiquement pervers. Voilà. Donc je me suis dit, il faut pas faire ça. Alors, du coup, il fallait faire autre chose. Donc il aurait fallu travailler sur les formes de lutte de jeunes des classes populaires au cours des 10 dernières années. Alors il y a un ensemble d'enquêtes qui existent sur le sujet, qui sont intéressantes, que je connais pour partie. Donc mon projet initial, c'était de faire ça. Puis là, j'ai renoncé devant l'ampleur de la tâche, tout simplement. Voilà. Donc j'ai changé de sujet. Voilà. J'ai changé de sujet et je l'ai fait de façon, d'une certaine façon un peu autobiographique, où j'ai essayé de réfléchir à ce qu'était moi, mon rapport à la question des conditions d'accès des jeunes des classes populaires à la parole politique. Donc j'ai pris en fait le parti de tenter de restituer, non pas tant peut-être les formes successives de mes espérances politiques de 65 à peu près, 1965, ça doit être la date à laquelle pour moi elles ont pris corps sans doute à peu près, jusqu'à de 1965 à aujourd'hui, où si mes espérances politiques se sont pas tout à fait dissipées, elles se sont sans doute passablement transformées, que donc non pas tant restituer mes espérances politiques ou l'histoire de mes espérances politiques, après tout ça n'intéresse que moi, que les transformations dans ma façon tout à fait impersonnelle, celle-là, d'appréhender les conditions d'accès à la parole politique chez les jeunes des classes populaires. Pour résumer ces transformations, on peut dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, qu'elles m'ont conduit de Marx à Bourdieu, pour faire simple, hein, c'est-à-dire aussi de l'espérance révolutionnaire à ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme la quête un peu désabusée d'une utopie réaliste. Voilà, si je devais caractériser comment je vois les choses aujourd'hui. En m'interrogeant récemment sur les origines intellectuelles de mai-juin 68, où certains ont rétrospectivement voulu voir, soit pour certains, l'apothéose de la révision du marxisme, le tri triomphe de la nouvelle gauche, la brèche du situationnisme, je cite, hein, ou encore l'apogée de l'anti-humanisme, et où d'autres ont tenté d'imposer, d'identifier ce qu'ils appellent une master frame, c'est-à-dire, master frame, c'est le mot à la mode chez les politistes, hein, ça veut dire les cadres de l'expérience chez Goffman, ou bien les schèmes de perception et d'appréciation chez Bourdieu, tout simplement. Donc, d'autres ont tenté d'identifier une master frame de mai-juin 68, qui serait le schème anti-autoritaire, voilà, vous voyez, c'est le schème structurant, hein, de perception et d'action de mai 68, voilà, le schème anti-autoritaire selon Boris Gobi, l'aliénation selon Michel Trevitch ou la contestation selon Bernard Briand. Il m'a semblé, quant à moi, que les schèmes génériques du marxisme, sous ces diverses formes, je pense à des schèmes, vous voyez, banal, quoi, hein, mais justement, c'est leur banalité qui faisait aussi leur force, comme l'opposition bourgeoisie-prolétariat, infrastructure, superstructure, science, idéologie, idéalisme, matérialisme, réforme, révolution, capitalisme, communisme. Enfin, c'est autant de thèmes qui s'imposaient, je crois, aux esprits de tous en ce temps-là. Donc, ces schèmes structurants, ces schèmes génériques du marxisme constituaient en quelque sorte la master frame, si on prend son vocabulaire, des événements de mai-juin 68, qu'il s'agisse des débats étudiants de l'époque ou des mots de la tribu ouvrière de la même époque. Plus précisément, le messianisme ouvrier et la prophétie communiste, telles qu'ils étaient formulés dans le manifeste communiste de 48, me semblent en fait avoir défini, de la deuxième moitié des années 60 à la deuxième moitié des années 70, la trame des espérances politiques d'alors, mais aussi la boîte à outils théoriques des intellectuels de l'époque. Alors, je n'ignore pas, bien sûr, qu'elle reste aujourd'hui, à gauche de la gauche, hein, du parti de gauche au NPA, en passant par le PC, indissociable, hein, indissociablement la croyance et la science de référence. Je voudrais, pour mémoire, parce que j'ai fait l'exercice pour moi, vous lire quelques passages du manifeste. Bon, ça permettra de situer, voilà, la suite, hein, comment, voilà, sur la base de cette espérance qui était contenue dans le manifeste, on en vient, enfin, quand on est moi, en tout cas, à la réviser, en quelque sorte. Alors, voilà, je vais vous lire quelques passages du manifeste du Parti communiste, ça ne fait jamais de mal, c'est un très très bon texte, il faut la peine de relire, j'ai fait ça récemment avec beaucoup de plaisir. Bon, vous vous souvenez par exemple que ça contient, le manifeste, une thèse fondamentale par rapport à l'histoire. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Ça contient aussi une thèse forte, que résumée une phrase, sur le capitalisme. Dans la même mesure où la bourgeoisie, autrement dit le capital, se développe, on voit se développer le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Ces travailleurs sont obligés de se vendre morceau par morceau, telle une marchandise, et, comme tout autre article de commerce, ils sont livrés pareillement à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. Une thèse aussi sur le prolétariat. Le prolétariat passe par différentes phases de développement. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. Vous voyez, c'est important ça. Bon, voilà, quand il apparaît, il lutte. De toutes les classes subsistant aujourd'hui en face de la bourgeoisie, le prolétariat seul forme une classe réellement révolutionnaire. Voilà, quelques thèses, hein, fortes sur le prolétariat. Et puis, j'ajouterai encore, je ne vais pas résumer exhaustivement le manifeste, bien sûr, une double prophétie qui était tout à fait essentielle à mes yeux. D'une part, celle qui annonce le triomphe inévitable du prolétariat à mesure que la grande industrie se développe. La base même sur laquelle la bourgeoisie a assis sa production et son appropriation se dérobe sous ses pieds. Ce qu'elle produit avant tout, ce sont ses propres fossoyeurs. Son déclin et le triomphe du prolétariat sont également inévitables. C'est moi qui vous le dis. Bon. Ouais, texte directement prophétique. Autoprophétie, c'est que ce triomphe du prolétariat coïncide avec l'avènement d'une société sans classe, avec l'avènement du communisme. Je lis, si dans sa lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat est forcé de s'unir en une classe, si par une révolution, il se constitue en classe dominante et comme telle abolit par la force les anciens rapports de production, c'est alors qu'il abolit en même temps que ce système de production les conditions d'existence de l'antagonisme des classes, c'est alors qu'il abolit les classes en général et par là même sa propre domination en tant que classe. L'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous. Voilà, le lendemain qui chante, hein, qu'annonçait le manifeste du Parti communiste. Non, je crois que c'est important de rappeler tout ça, parce que je crois que tout ça définissait, au fond, les fondements, hein, je crois, d'une croyance qu'une grande part de l'humanité a partagée pendant très longtemps, et sans doute partage encore pour partie, et que j'ai partagée moi-même, je pense, fondamentalement, pendant une bonne partie de ma vie. Pour beaucoup, dont j'étais, les événements de mai 68, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la grève générale la plus spectaculaire, sans doute, de l'histoire du mouvement ouvrier, et l'ébranlement de l'ordre social qu'elle a provoqué, attestait, je crois, le bien fondé de cette phrase de Lénine qui figurait sur la couverture des cahiers marxistes-léninistes de l'époque. J'étais abonné dans ce sens-là. Lénine disait « La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. » Voilà. Bon, et on se dit, il a raison. Il a raison, Lénine. Hein, voilà, mai juin 68, pour beaucoup, mai juin 68 apparaissait comme une quasi-vérification expérimentale de la scientificité du marxisme, du bien fondé de la prophétie marxiste. D'autant plus que, comme l'a montré Xavier Vignat dans sa thèse il n'y a pas très longtemps, l'insubordination ouvrière ne fléchit pas après mai 68, mais se prolonge au moins jusqu'au conflit d'Élipe, voilà, si on doit donner une limite. L'après-mai, donc, fut pour les militants d'extrême gauche l'espérance, en quelque sorte, de la réitération de cette grève générale, qui s'est, espérance, qui s'est peu à peu éteinte, parce que, voilà, quoi, la vois-tu venir, on ne voyait rien venir, quoi. Bon, voilà. Donc, pour beaucoup, l'espérance s'est peu à peu défaite. Les groupes d'extrême gauche, en tout cas ceux auxquels j'ai participé, se sont défaits, délités peu à peu. C'est comme ça que je me suis retrouvé en panne de militantisme, faute de militants, voilà, ce temps-là. Et c'est comme ça que je me suis aussi efforcé de devenir le sociologue que j'étais censé être, enquêtant alors successivement sur ce qu'on appelait à ce temps-là la contre-culture, puis sur les jeunes des classes populaires, et plus spécifiquement sur la question qui était alors dans l'air du temps de l'allergie au travail des jeunes ouvriers. Il y a eu un livre célèbre de Jean Rousselet, voilà, bon, donc c'était un thème à la mode, je m'étais fait financer dans une recherche par le ministère du Travail, puis par le ministère de l'Équipement, etc., sur les jeunes des classes populaires. Voilà, ça a duré tout ça un certain temps. Bon, et c'est en enquêtant, je crois, que j'ai pris conscience du caractère un peu rudimentaire de la boîte à outils théorique marxiste, althusséro-marxiste dans mon cas, hein, voilà, dont j'étais très très fier en ce temps-là, et que j'ai fini par découvrir de façon un peu fortuite, mais tardivement, l'œuvre de Bourdieu. Cette découverte de l'œuvre de Bourdieu ne fut pourtant pas pour moi quelque chose comme une illumination, dans la mesure où les résistances qui étaient les miennes en ce temps-là s'opposait à un effet non moins certain de révélation. Bon. Révélation, d'une part, c'est, on pourrait dire que ce que je lisais dans la distinction, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est le premier livre de Bourdieu que j'ai lu, moi, c'est tard, 79, ce que je lisais dans Bourdieu faisait écho à la fois à mon expérience du monde social et à mon expérience militante puis sociologique de l'enquête. Résistance, il me semble, on peut dire que le concept d'habitus, tel qu'il était formulé, tel que je le comprenais à cette époque-là, heurtait de front le subjectivisme ou le volontarisme de mes dispositions militantes, et que le concept de violence symbolique, par exemple, me semblait littéralement propre à désespérer Billancourt, pour faire image, et ne pas rendre compte, par ailleurs, des résistances que, quand même, on pouvait voir ça et là. Voilà. Bon, comment penser voilà, la révolte, la résistance, etc., avec ce type de matériel qui me semblait voilà, un peu bon, désespérant. Voilà. J'y suis toujours. Hein. J'en suis jamais vraiment sorti, à vrai dire. Mais si j'arrive jusqu'au bout, j'essaierai de vous dire pourquoi. Voilà. Reste que mon appropriation progressive de la sociologie de Bourdieu a été pour beaucoup, à la fois dans la recomposition de ma vision du monde social, dans la révision de mes espérances politiques, mais aussi plus spécifiquement dans ma conception des conditions d'accès à la parole politique des jeunes des classes populaires, le sujet en question. Hein, c'est petit à petit, bon, voilà, tout ça fait son chemin dans ma petite tête et a transformé, je dirais, un certain nombre de choses. Alors, c'est ce que je voudrais tenter d'expliciter en évoquant d'abord quelques aspects très généraux de la sociologie des classes populaires selon Bourdieu, puis de façon plus spécifique, la question de la domination, de la violence symbolique et de la double vérité des pratiques populaires. Alors, j'ai jusqu'à quand ?
15h05.
15h05, waouh. Non, c'est dramatique. Bon, voilà. Bon, alors, normalement, donc, voilà, j'aurais dû... non, mais c'est un truc fleuve, voilà, c'est terrible. Bon, alors, j'avais prévu de vous parler, bon, donc, de quelques aspects, donc, de la sociologie des classes populaires, selon Bourdieu. Dans ce cadre-là, je voulais évoquer, sommairement, la révision opérée par Bourdieu de la théorie marxiste des classes sociales et, par rapport à cette révision, le rôle spécifique des intellectuels par rapport aux classes populaires. Alors, la révision de la théorie marxiste des classes sociales chez Bourdieu. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui me semble, en tout cas, dans une perspective politique, ce qui me semble important de souligner, c'est l'insistance que met Bourdieu à distinguer la classe théorique, c'est-à-dire telle qu'on peut la construire sur le papier ou dans la tête du savant, l'écart donc entre cette classe théorique et la classe pratique, la classe mobilisée. Bon, voilà. Alors, je peux dire qu'en ce qui me concerne, c'est vrai que l'expérience du militantisme et de l'enquête sociologique, c'est-à-dire de la confrontation avec des réalités floues, confuses, ambiguës, contradictoires, m'avait rendu sensible à la mise en garde formulée par Bourdieu contre la philosophie de l'histoire inscrite dans l'usage ordinaire du langage ordinaire qui porte à constituer des mots qui désignent des collectifs comme les classes populaires, la classe ouvrière, la bourgeoisie, etc., en des espèces de sujets historiques capables de poser et de réaliser leurs propres fins. D'autre part, Bourdieu insistait sur justement cet écart que j'indiquais tout à l'heure entre la classe sur le papier et la classe mobilisée. Je découvrais aussi chez lui que rien n'était dit chez Marx ou pas grand-chose sur l'alchimie mystérieuse par laquelle un groupe en lutte, collectif personnalisé, agent historique, pose ses propres fins, surgit des conditions économiques objectives. C'est-à-dire ce prolétariat, voilà, comment est-ce qu'il se constitue, voilà, hein, en classe en lutte, voilà, et se constitue-t-il toujours et systématiquement en classe en lutte, ou par quel miracle, hein, se constitue-t-il comme tel. Bon, voilà. En d'autres termes, bon, Bourdieu insistait sur le fait que s'il est vrai que la proximité dans l'espace social permet des rassemblements ou des formes de mobilisation plus probables que si on est plus éloigné dans l'espace social, c'est pas pour autant que la proximité induit le rassemblement et que même qu'on ne puisse pas imaginer que des gens très éloignés puissent se réunir dans certaines circonstances et sous certaines circonstances. Et qu'à penser, je sais pas, par exemple, à la guerre de 14-18, quoi, voilà, où tout le monde va allègrement dans la tranchée parce qu'on est tous français, quoi. Bon, voilà. Bon, c'est un exemple parmi bien d'autres. Voilà. De ces prémices, on peut aussi, pour Dieu, est amené à s'attarder sur la notion de classe représentée et à l'importance du travail de représentation dans tous les sens du terme. Hein, c'est représentation au sens de production symbolique, d'une représentation, d'une image, d'emblème, etc. Et aussi travail de représentation politique au sens de représentant hein, qui incarne, porte la parole de la classe. Bien. D'où, bon, en insistant beaucoup sur l'importance justement de cette capacité à faire exister hein, un collectif, au moins dans les esprits, sinon dans la rue, comme groupe mobilisé. Bon. Voilà. C'est pourquoi la production de représentation du monde social, auquel contribuent des politiques, les journalistes, les sociologues, est toujours un enjeu de lutte, parce qu'après tout, dans ces luttes de représentation, il est aussi toujours question de la mobilisation des classes représentées. Quoi. Bon. Voilà, donc c'est aussi un enjeu de lutte. Bien. Voilà, c'est désespérant, je ne sais pas comment faire. Bon. Oui, voilà, donc ce qui conduisait aussi, bon, la même perspective conduisait aussi à ce moment-là, si on la suit, vous voyez, bon, si on se dit ce qui est essentiel dans ce passage, c'est les luttes de représentation, c'est qui est capable de participer à ces luttes de représentation. La capacité de participer à ces luttes de représentation, ça suppose de disposer des instruments hein, symboliques de production de ces représentations. Or, de ce point de vue-là, évidemment, il est évident que les classes dominées sont évidemment particulièrement démunies, en tout cas, sont pour les mieux dotées en instruments hein, de ces représentations, ce qui le conduit, dans le cas de la paysannerie, à dire, oui, à décrire la paysannerie comme une classe objet. Hein, et il dit, les paysans ne parlent pas, ils sont parlés par d'autres. Hein, c'est d'autres qui disent ce qu'ils sont. Alors, je pense que ça s'étend, c'est extensible, je crois, à toute espèce de classe dominée, pour les mêmes raisons. Hein, c'est quand on est dépourvu des instruments de production de sa propre représentation, symbolique, il y en a d'autres qui s'en chargent. Quoi. Bon, voilà, tout simplement. Bon, donc, d'où voilà, cette phrase qui a pu choquer, ils ne parlent pas, ils sont parlés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas les ressources qui leur permettent, en tout cas, d'accéder à la sphère publique de la représentation. Bien, voilà, je passe. Alors, conclusion, voilà, autre conséquence qui découle de ce propos, c'est que ces classes parlées hein, sont aussi de ce fait nécessairement aliénées dans la mesure où cette dépossession de sa propre représentation implique une forme d'aliénation. Hein. Une des dimensions fondamentales de l'aliénation, écrit Bourdieu, réside dans le fait que les dominés doivent compter avec cette classe pour autrui qui s'impose à eux comme une essence, un destin, un fatum, c'est-à-dire avec une force de ce qui est dit avec autorité, hein, et qu'ont des représentations qui font aussi qu'ils sont sans cesse invités hein, à se conformer, en quelque sorte, à leur représentation qu'on impose avec autorité de ce qu'ils ont à être. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il parlait des paysans aux paysannés, quoi. Bon, vous voyez, le paysan folklorisé, qui après, bon, voilà, propose pour les touristes aux paysans, quoi. Bon, ou breton bretonnant, etc. Bon, voilà, mais je pense que vous voyez, c'est transposable pour les jeunes des cités aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est l'image hip-hop du jeune des cités avec la casquette, machin, les baillis et le reste, quoi. Bon, voilà, c'est une espèce d'image imposée de ce qu'il a à être. Il y en a une parmi d'autres, hein, et qui contribue, je crois, bon, à produire finalement. Que ces représentations agissent aussi de façon performative, c'est-à-dire au sens où elles fonctionnent comme des prophéties autoréalisatrices, quoi, en quelque sorte, c'est-à-dire à la mesure où elles ont les moyens de s'imposer à ceux auxquels elles s'adressent. Bien. Ainsi, les différents secteurs de production idéologique, qui sont eux-mêmes portés par la logique de leurs intérêts propres, et qui sont presque toujours aveugles, pour des raisons que c'est facile à expliquer, à la diversité des jeunes des cités, par exemple, puisque je viens d'en parler, les convient à intérioriser, par exemple, la culture hip-hop censée leur appartenir, ou à retourner à leur culture d'origine, supposée au moment où les exigences tacites des marchés économiques, patrimoniales et scolaires leur imposent plus brutalement que jamais de les abandonner, sont portés donc à leur imposer, quoi, en quelque sorte. Voilà. Bon, alors les intellectuels et le populaire. J'ai dit que ces représentations étaient un enjeu de lutte symbolique qui suppose, pour participer à ces luttes, la possession hein, de ces instruments de lutte symbolique. Donc c'est un enjeu pro-intellectuel. La représentation du monde social et la représentation des classes sociales sont un enjeu de lutte entre intellectuels. Bon, alors elles mettent aux prises différentes catégories hein, d'intellectuels qui se battent évidemment à propos de. Vous voyez, c'est un enjeu de lutte essentiel entre intellectuels pour se battre à propos de la représentation du monde social et des classes sociales, et en particulier des classes populaires. Voilà, alors Bourdieu à ce propos rappelait qu'il suffit d'avoir à l'esprit. Voilà, il disait pour jeter une certaine clarté sur les discussions à propos du peuple et du populaire, il suffit d'avoir à l'esprit que le peuple ou le populaire est d'abord un des enjeux de lutte entre les intellectuels. Le fait d'être ou de se sentir autorisé à parler du peuple ou à parler pour, au double sens, du peuple, pour le peuple, peut constituer par soi une force dans les luttes internes aux différents champs. Voilà. Bon, alors on pourrait développer, il faudrait développer, indiquer que, voilà, par exemple, dans ces luttes, comment différentes catégories d'intellectuels choisissent leur peuple. Hein, le peuple, disait-il aussi, c'est une entité à géométrie variable, quoi. Bon, donc chacun peut choisir son bout de peuple hein, pour parler le peuple, quoi. Bon, voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est aussi pourquoi je n'ai pas fait l'exposé que j'avais prévu. Je ne voulais pas avoir l'air de dire, voilà, la caïra des cités, c'est le peuple, quoi. Bon, non, c'est débile. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé là-dessus que, bon, voilà, je veux dire, c'est ça la vérité de la condition des jeunes des classes populaires aujourd'hui. C'est tout simplement idiot. Voilà. Donc, c'est pour éviter ce genre de truc, mais qui est évidemment une bonne tout à fait courante. Hein. Bon. Donc, à chacun son peuple, quoi. Bon, ça fait partie des règles implicites qui fonctionnent dans ce monde des intellectuels, dans ce monde des producteurs d'images du peuple. Bon, il y a un deuxième truc qui me semble très intéressant sur lequel Bourdieu avait mis le doigt à propos de ces luttes hein, de représentation du populaire par les intellectuels, c'était ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la représentation scolastique du peuple livré par l'analyse du garçon de café chez Sartre. Grosso modo, voilà, il faisait, bon, vous connaissez, c'est une analyse célèbre, hein, le garçon de café chez Sartre dans Lettres et le Néant. Bon, voilà, et c'est pour essayant de comprendre le garçon de café, tout se passe comme si Sartre mettait dans la tête du garçon de café la tête de Sartre, quoi, vous voyez, dans un habit de garçon de café, quoi, qui choisit librement chaque jour de se lever à 5 heures du mat pour aller nettoyer le percolateur. Bon, c'est vrai qu'il pourrait choisir autre, bon voilà, qui fonctionne à proprement parler comme un intellectuel existentialiste, etc. Bon, alors je pense que ce paradigme du garçon de café, quoi, bon, je pense qu'il est très très intéressant parce que je crois qu'il livre la clé, hein, d'une des formes classiques des projections intellectualistes ou des visions intellectualistes du peuple qui consistent à imputer aux classes populaires des réflexions d'intellectuels par rapport à la condition des classes populaires, quoi, grosso modo. Hein. Voilà. Je cite Bourdieu, il dit, on aura reconnu, à propos du paradigme du garçon de café, on aura reconnu la logique, celle de l'identification à un fantasme, selon laquelle d'autres, donnant le rapport intellectuel à la condition ouvrière pour le rapport ouvrier à cette condition, vous voyez, le rapport intellectuel à la condition ouvrière, confondant donc ce rapport intellectuel à la condition ouvrière avec le rapport ouvrier à la condition ouvrière, c'est pas tout à fait la même chose, ont pu produire un ouvrier, soit tout entier engagé dans les luttes, ou au contraire, par simple inversion, comme dans les mythes, désespérément résigné à n'être que ce qu'il est, à son être soi d'ouvrier, à son être en soi d'ouvrier. Voilà. Bon. Alors que faire pour échapper à ce type de travers, voilà, quelles leçons on peut bien en tirer? Je crois deux choses tout à fait essentielles, en tout cas moi que j'ai retenu. C'est d'une part l'impératif de réflexivité, hein, comment échapper à ces représentations qui doivent plus au point de vue de celui qui représente qu'à ceux qui sont représentés. Deux solutions, une pratique réflexive de la recherche, c'est-à-dire voilà, hein, pense à ce que tu fais à chaque fois que tu fais quelque chose, bon, et t'en fais de contrôler, et deux, le recours à l'enquête. Avec toutes les difficultés propres à l'enquête auprès des classes populaires. Bon, j'ai écrit un article il y a longtemps là-dessus, je n'ai pas le temps de raconter. Bon, enquêter en milieu populaire, ça s'appelle, où j'ai essayé de réfléchir, voilà, à la difficulté spécifique de l'enquête en milieu populaire. Bon, une des difficultés étant celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple étant parlé et subissant l'effet symbolique des représentations qu'on lui impose, est aussi disposé à, quand on va l'interroger, vous ressortir ce que finalement on lui a inculqué, quoi. Vous voyez, c'est au fond, vous voyez, c'est le paradoxe, enfin l'apparent paradoxe où, et finalement, diffusant une représentation du peuple, on va recueillir ce qu'on a soi-même diffusé, quoi. Bon, et on est très content, on dit j'avais raison, quoi. Bon. Voilà. Bon. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est au pire. Bon. Alors, ben, j'ai. Oui. Bon, tu me laisses 5 minutes pour faire la deuxième partie. Bon. Oui, c'est tout à fait vain. Bon, alors voilà, dans la deuxième partie, j'avais je voulais aborder un autre aspect qui me semble très important quand on passe de Bourdieu à Marx, c'est la question de la domination, de la violence symbolique, bon, et de la double vérité des pratiques populaires. Alors, voilà, au fond, la question, vous voyez, celle que je reprends des passages que je citais du manifeste tout à l'heure, c'est est-il bien vrai que la bourgeoisie produit automatiquement ses propres fausses roues d'ailleurs, quoi? Est-ce que ça va tellement de soi? Bon. Quand on lit Bourdieu, voilà, ça sème le doute. Hein, bon. Ça sème le doute qui apparaît bien fondé quand, par ailleurs, on enquête. Alors d'abord, premier aspect, c'est le constat, souvent réitéré, malheureusement, mais pas toujours, que l'ordre règne. Voilà, que l'ordre règne et que la violence symbolique, c'est le concept clé que Bourdieu utilise pour expliquer que l'ordre règne, semble bien souvent bien fondé. Je n'ai jamais cessé, écrivait Bourdieu à la fin de sa vie, de m'étonner devant ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de la doxa, le fait que l'ordre du monde tel qu'il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre ou au sens figuré, ses obligations et ses sanctions, soit grosso modo respecté, qu'il n'y ait pas davantage de transgression ou de subversion, de délit et de folie. Il suffit de penser à l'extraordinaire accord de milliers de dispositions ou de volontés que supposent 5 minutes de circulation automobile sur la place de la Bastille ou de la Concorde. Mais c'est vrai, bon. Ouais, c'est bizarre, quoi. Bon, ça se fait qu'il se passe, bon, il va plus de temps le froisser, quoi, bon, continuellement. Bon. Ou, plus surprenant encore, que l'ordre établi, avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se perpétue en définitive aussi facilement, mis à part quelques accidents historiques, et que les conditions d'existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et même naturelles. Alors, la réponse que Bourdieu produit à l'énigme du maintien de l'ordre, est à la fois, c'est pas celle de Bourdieu, on va dire, c'est une question ancienne, hein, elle est ancienne et il y a des réponses plurielles, hein, et les réponses qui ont été classiquement proposées étaient d'une part la coercition physique, hein, c'est la réponse de Max Weber, c'est l'État comme monopole de l'usage légitime de la violence symbolique, bon, ça sert, hein, il y a des CRS, là encore, enfin bon, c'est pas disparu, hein, c'est un aspect du maintien de l'ordre, mais c'est aussi une réponse plus directement marxiste, hein, celle de la coercition économique, hein, c'est les prolétaires contraints de vendre librement leur force de travail, quoi, ils n'ont pas le choix, hein, pour survivre, il faut bien, la coercition économique de facto, c'est la réponse, autre réponse marxiste, c'est celle de l'idéologie allemande, hein, c'est l'idéologie dominante et celle des classes dominantes qui s'imposent à tous. Voilà. C'est aussi sous une forme revisitée, la même chose chez Max Weber, c'est l'idéologie dominante a pour elle les différentes formes disponibles de légitimité sur lesquelles elle s'appuie. C'est aussi, d'ailleurs, si on veut, la réponse que propose Durkheim, pour lequel le conformisme logique et moral est lié à l'intériorisation par tous des formes primitives de classification. Bon, c'est les schèmes dominants de pensée, hein, très très généraux, sont inculqués à tous, ce qui permet de comprendre que l'ordre règne. Alors la contribution propre de Bourdieu à cette question tient dans ce concept de violence symbolique. Là, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais je n'ai pas le temps du tout. Il me semble, alors je vous lirai comme ça mon point de vue, il me semble qu'en fait, on peut distinguer deux versions parallèles chez Bourdieu du concept de violence symbolique. En fait, il y a deux versions distinctes à mes yeux. Il y en a une qui est dérivée des travaux sur l'école, une qui est dérivée des travaux d'ethnologie kabyle. La version dérivée des travaux sur l'école est finalement très proche de la conception de l'idéologie dominante chez Marx, celle de l'idéologie allemande. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, on pourrait dire ça. C'est Marx plus Weber plus Durkheim, quoi, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle met en jeu des processus conscients, de façon tout à fait essentielle, et l'ordre de la légitimité. Il y a une autre version qui est beaucoup plus pessimiste, qui est celle qui prévaut à la fin de sa vie, d'ailleurs dans ses derniers travaux, dans les méditations pascaliennes, dans la domination masculine, où la violence symbolique apparaît comme profondément liée à l'incorporation de cette violence légitime. Et en fait, en insistant sur le caractère incorporé de la domination, c'est-à-dire l'incorporation des chaînes de perception qui permettent la domination de s'exercer, il place en quelque sorte la conscience de la domination hors conscience, justement. Vous voyez, il la met dans le corps, et de ce fait, très difficilement accessible à la conscience. Alors désolé, je jargonne un peu, je n'ai pas le temps. Il faudrait développer ça, puis en plus, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été d'accord avec ça. Moi, je crois ça. Je crois qu'il y a deux versions, en fait. Je pense l'avoir montré il y a quelque temps dans un article. Alors, j'en viens au deuxième thème dont je voulais parler, la double vérité des pratiques populaires, ce qui sera peut-être un peu plus réjouissant, si on veut, que le thème de la violence symbolique ou de l'ordre règne. Dans cette perspective, reste à savoir donc d'où pourrait bien venir la transformation radicale des conditions sociales. Ben oui, parce que vous voyez, la version pessimiste du concept de violence symbolique, au fond, Bourdieu dit que la révolution symbolique qu'appelle tout mouvement d'affranchissement ne peut se réduire à une simple conversion des consciences et des volontés, mais qu'elle ne peut venir que d'un changement des conditions sociales de production des dispositions. Mais alors, on se dit à ce moment, on peut dire, comment elles vont changer les conditions sociales de production des dispositions, quoi. Si les dispositions ne changent pas, on est enfermé, quoi. Il y a une espèce de fermeture, là, qui est un peu tragique. Alors, il me semble que pour sortir de cette impasse théorique apparente, en tout cas, il n'y a sans doute pas d'autre issue, je crois, que ce que je disais tout à l'heure, l'enquête réflexive sur les pratiques populaires. Allons voir qu'est-ce qui se passe quand il se passe quelque chose, justement. Puisqu'il arrive qu'il se passe quelque chose, quand même. Alors, j'en aurai pour conclure trois exemples, deux que j'emprunte à Bourdieu lui-même et un troisième à Paul Willis. Alors, le premier exemple, l'impasse que souligne Bourdieu de l'alternative résistance-soumission, et qui, à mon avis, est une réponse forte au livre que peut-être certains d'entre vous connaissent, de Grignon Passeron sur misérabilisme, populisme, machin, etc. Alors, c'est une réponse qui tient en deux lignes, mais qui me semble très, très forte. Je suis bon Dieu, il dit, voilà, première thèse. Si pour résister, je n'ai pas d'autre ressource que de revendiquer ce au nom de quoi je suis dominé, est-ce que c'est de la résistance? Bon, par exemple, je réclame, je sais pas, la langue des cités. Voilà, hein, j'impose la langue des cités. Mais est-ce que je résiste en faisant ça, quoi, ouais, là, c'est, alors que je suis justement dominé à l'école, par exemple, parce que justement je cause la langue des cités. Quoi, bon, donc vous voyez, revendiquer la langue des cités, est-ce que c'est une résistance ou c'est faire acte de soumission? Mystère. Deuxième formule. Quant à l'inverse, les dominés travaillent à perdre ce qui les marque comme vulgaire, la langue des cités par exemple. J'apprends à parler bien, j'apprends à parler la langue scolaire, et à s'approprier ce par rapport à quoi ils apparaissent comme vulgaires. Est-ce que c'est de la soumission? J'apprends la langue de l'école, je me soumets, ou au contraire, j'échappe à la domination? Vous voyez le problème. Bon, voilà. Alors, conclusion, on peut dire que la résistance peut être aliénante et que la soumission peut être libératrice. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue, ouais, hein, à ce type de faux dilemme. Déjà, je pense que Bourdieu voit juste par rapport à cette question-là. La double vérité du travail salarié, c'est Bourdieu encore, ça. Je pense que c'était aussi particulièrement bien vu. Grosso modo, il dit, Bourdieu, que le travail salarié des ouvriers, hein, est à la fois objectivement, hein, il y a une vérité objective du travail salarié qui est l'exploitation, mais que cette vérité objective du travail salarié est dissimulée par la vérité objective du rapport au travail de l'exploité, hein, qui se débrouille pour trouver, en général, dans son travail, un minimum d'intérêt, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vérité d'intérêt au travail, c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'investissement, hein, nécessaire dans le travail pour supporter justement la dureté de ses conditions de travail comme condition, vous voyez, une espèce de vérité subjective du travail salarié, c'est-à-dire l'intérêt au travail qui permet de survivre. Bon. Voilà. Donc il y a en quelque sorte un espèce de désajustement entre la vérité objective, l'exploitation, et la vérité subjective du travail salarié. Est-ce qu'il faut alors décrire cet investissement subjectif dans le travail comme une résistance ou comme une forme d'auto-exploitation? Bah, là encore, vous voyez, c'est exactement le même type de problème. Hein, c'est, bah, oui, bah, la conclusion est la même que précédemment, quoi, vous aurez compris. On peut appliquer, je pense que c'est le même schéma qui sous-tendait l'analyse qu'avait proposé un anthropologue anglais, Paul Willis, dans un livre célèbre qui s'appelle Learning to Labor, où il montrait la double vérité, en quelque sorte, là aussi, de la culture, ce qu'il appelle la culture anti-école et de la culture d'atelier. Alors, la culture anti-école, selon Willis, c'est celle que les enfants de la classe ouvrière importent dans le système scolaire. Hein, elle correspond grosso modo à ce qu'on appelle aujourd'hui les violences scolaires, quoi, grosso modo. Hein, c'est l'importation de la culture de rue à l'école, quoi, bon, des valeurs de virilité, machisme, etc. Bon, la culture de l'atelier, c'est la même chose, elle est définie, je cite là Willis, un mélange caractéristique de chauvinisme, de dureté, de machisme, une espèce d'attitude très généralement associée aux travaux pénibles, hein, qui comporte toujours un corps à corps primordial avec les tâches physiques pénibles. Bien. Alors, Willis insiste sur le parallélisme et la continuité, hein, entre ces deux formes de la culture ouvrière, la culture anti-école et la culture d'atelier. Bon, et il en déduit alors un ensemble de conclusions qui, là encore, sont apparemment paradoxales, mais exactement le même type de paradoxe. Hein, il dit, c'est à travers le fonctionnement en partie autonome des processus inhérents à cette forme d'opposition ouvrière en milieu scolaire que, de façon surprenante, s'accomplit la fonction la plus difficile du système éducatif, aiguiller une bonne partie des jeunes vers les travaux indispensables et ingrats de la production industrielle. Quoi. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, à travers la culture anti-école, et finalement, ils se ruent vers le sale boulot que personne ne veut faire. Donc c'est génial, quoi. Bon, vous voyez, c'est totalement fonctionnel. De fait, c'est formidable. Et voilà. Oui, alors ils disent, c'est ainsi que, de manière assez curieuse, les jeunes gens conformistes qui entrent à l'usine, vous voyez, les faillots, du point de vue des gars, comme on dit, sont perçus par ceux qui sont au poste de commande comme plus menaçants et moins désireux d'accepter l'ordre des choses établies. Car il se trouve que ces jeunes gens, les bien sages comme il faut, les bons élèves, croient encore à l'idéologie de l'égalité, de l'avancement par le mérite que l'école leur a légué. Donc vous voyez, finalement, les résistants ne sont pas ceux qu'on croit, quoi, en tout cas du point de vue de la direction. Mais alors il renverse encore l'argument, mais il dit, mais à l'inverse, la culture anti-école et les autres formes culturelles de la classe ouvrière soutiennent des éléments propres à étayer une critique en profondeur de l'idéologie dominante de l'individualisme. Pour la classe, je cite Willis, hein, pour la classe en tant que classe, l'échelle scolaire, la hiérarchie des emplois, ne donne pas la mesure des capacités, mais tout simplement celle de la domination qu'elle subit de raisonnable du point de vue de l'individu, l'ascension de l'échelle devient stupide du point de vue du membre de la classe. D'où, dit-il, le fatalisme typique semi-amusé de la classe ouvrière, pour conclure finalement que la culture anti-école et la culture d'atelier sont fondamentalement limitées et sont bien incapables d'offrir en guise de solution de rechange à l'avenir qu'elle refuse un projet d'avenir parfaitement élaboré. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très optimiste tout ça, mais vous voyez, en fait, ce qui me semble intéressant à comprendre là-dedans, c'est justement le caractère de double vérité, c'est-à-dire l'extrême ambiguïté, en fait, de quelle que soit l'attitude, vous avez toujours faux ou toujours bon, c'est comme on voudra. Alors, je conclue. Je ne voudrais pas conclure, justement, ce propos de façon trop, trop pessimiste. Je ne pense pas, et sans doute Bourdieu ne le pensait-il pas non plus, que tout a été dit désormais sur les conditions d'accès à la parole politique chez les jeunes des classes populaires. Comment est-ce qu'on pourrait bien poursuivre l'enquête et l'analyse sociologique aujourd'hui? Je pense qu'il faut poursuivre l'enquête, ce que j'aurais voulu faire, mais je n'ai pas fait. Je pense qu'il faut poursuivre l'enquête sur les conditions sociales de possibilité et sur les formes de mobilisation contemporaine des classes populaires, en ayant en particulier à l'esprit l'impératif de réflexivité. Si, par ailleurs, de Marx à Bourdieu, la boîte à outils théoriques s'est enrichie, complétée, diversifiée, complexifiée, comme on voudra, il me semble que deux questions restent néanmoins ouvertes, en tout cas moi elles m'intéressent. Celle des deux formes de la violence symbolique et des conséquences politiques qu'elles impliquent, je l'ai évoqué très très rapidement, très succinctement tout à l'heure, mais je pense que c'est une question importante où il y a, à mon avis, à creuser, à réfléchir davantage sur la base de travaux empiriques. Celle, d'autre part, de la sociogenèse des habitus et, plus spécifiquement, de ce que Bourdieu désigne de façon un peu sibylline, en tout cas à mes yeux, comme l'incorporation, je cite, l'incorporation des structures objectives du monde social et l'appréhension du monde ordinaire comme allant de soi, qui résulte de l'incoïncidence quasi parfaite des structures objectives et des structures incorporées. Bon, réfléchissez à tout ça, voilà, ça pose des tas de problèmes, à mon avis, théoriques et empiriques, qui mériteraient qu'on s'y attarde. En tout cas, ça fait partie de mes chantiers. Bref, il me semble qu'il reste beaucoup à faire. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été hors sujet et trop long.
Bien, merci pour cette tentative et cet exposé bien dense. Je passe tout de suite la parole à Romuald, pour commencer, Romuald Baudelin.
Alors, je vais juste commencer par préciser que ce que nous allons présenter tous les trois aujourd'hui s'appuie sur une enquête qui a été réalisée en 2006 pendant et sur le mouvement étudiant anti-CPE. Mais que le challenge d'aujourd'hui, c'est de retraiter en quelque sorte la question, mais d'un point de vue nouveau, enfin quelque chose qui n'est pas traité dans ce que nous avions fait auparavant et qui sera prochainement publié, c'est-à-dire de penser ou de retravailler cet objet à partir de la question de l'utopie et de l'utopisme de la vision du monde qui correspond à ce qu'on appelle l'utopisme. Donc c'est un travail qui est en chantier. Pour ma part, je vais plutôt vous présenter l'hypothèse de travail, donc en la durcissant un peu de fait, puisqu'il s'agit d'une première tentative, et Jérôme et Bertrand, par la suite, en mobilisant donc les données recueillies, les analyses réalisées concernant le mouvement anti-CPE, vont essayer de faire fonctionner cette hypothèse de travail. Alors, c'est sans doute parce que la notion d'utopie est généralement comprise comme ce qui s'oppose le plus radicalement au réalisme, à la réalité, à ce qui est, que les sciences sociales, plus portées vers les faits ou vers l'empirie que des disciplines comme la littérature ou la philosophie, se sont assez peu interrogées sur l'utopie, sur l'utopisme. La présente contribution voudrait montrer que la difficulté évoquée n'est peut-être qu'une question de mots. Que dès lors que l'on considère l'utopie comme une pratique sociale, comme pratique qui caractérise certaines personnes ou certains groupes sociaux plus que d'autres, l'utopie peut et doit faire l'objet d'une analyse sociologique. Dans cette optique, nous voudrions montrer que le monde des étudiants et les mouvements étudiants apparaissent comme des lieux privilégiés pour analyser les relations entre utopisme et pratique sociale, utopisme et engagement politique. Donc, c'est-à-dire d'analyser une pensée, d'analyser un rapport au monde capable de rompre et dès lors de s'opposer aux évidences du temps présent, ou pour le dire encore plus directement, aux idéologies dominantes qui apparaissent comme des évidences à force d'imposition. Mais dans un premier temps, pour donner prise à l'analyse, il faut préciser ce que nous entendons par utopisme, en tout cas ce que nous allons entendre par utopisme dans le cadre de ce travail. Michel Foucault remarquait qu'en ce qui concerne les marges, les marginaux, qu'il s'agisse d'une marginalité volontaire ou subie, qu'il s'agisse par conséquent du prisonnier mis à l'écart de la société, contre sa volonté, ou du hippie qui crée sa propre communauté à l'écart de la société de consommation, la notion d'hétérotopie, l'autre lieu, l'ailleurs, paraît bien plus appropriée que celle d'utopie. Étymologiquement, en effet, l'utopie ne désigne non pas un ailleurs, mais ce qui n'a au contraire nul lieu. Ce qui se trouve en aucun lieu, ni dans telle ferme biologique, ni dans telle expérience communautaire. L'utopie renvoie plutôt à quelque chose d'indéfini, quelque chose qui reste toujours à faire, voire même toujours à penser. L'utopie semble donc nécessairement devoir s'exprimer négativement. Elle n'est pas le désir de telle chose ou de tel lieu, mais bien plutôt le rejet, le refus de tel autre, c'est-à-dire de ce qui est. Plus sociologiquement, on peut trouver chez Pierre Bourdieu des éléments qui permettraient de définir plus concrètement ce qu'on entend en ce sens-là par utopisme. Il décrit dans la distinction de telles dispositions sociales. On trouve par exemple au sein d'une certaine fraction de la petite bourgeoisie ce rapport au monde spécifique que je viens d'évoquer. En effet, il s'agit moins pour cette fraction de dire ce qu'elle est, de se classer, même en marge, que de refuser systématiquement tout classement. Elle prend, décrit Bourdieu, le contre-pied de la morale ascétique de la petite bourgeoisie établie. Leur style de vie et leur prise de position éthique et politique ont pour principe le rejet de tout ce qu'il y a en eux-mêmes de fini, de définitif. C'est le refus d'être rangé en un lieu déterminé de l'espace social. Utopisme pratique qui était jusque-là le privilège des intellectuels et qui les prédispose à accueillir toutes les formes d'utopie. Ils se veulent inclassables, c'est-à-dire tout plutôt que classés, assignés à une classe, à une place déterminée dans l'espace social. Il se caractérise par une sorte de rêve de vol social, un effort désespéré pour s'arracher à la force d'attraction du champ social de gravitation. Ils sont guidés par leur humeur anti-institutionnelle et par le souci d'échapper à tout ce qui peut rappeler les compétitions, les hiérarchies et les classements. Ces précisions faites sur ce que nous entendons par utopie ou utopisme, nous voudrions maintenant montrer dans quelle mesure la condition d'étudiant semble prédisposer, au moins dans une certaine mesure, à développer ce type de rapport au monde spécifique. Ainsi, nous pourrons éclairer sous un nouveau jour une dimension peu analysée des mouvements étudiants qui, bien évidemment, puisent dans ces dispositions, bien que, nous le montrerons ensuite, elles ne s'y réduisent pas. Trois dimensions au moins de la vie étudiante permettent de comprendre en quoi et pourquoi la situation de l'étudiant enferme la possibilité objective d'un rapport quelque peu irréel aux études, à l'avenir, et la mise en suspens des classements et des hiérarchies sociales. L'anonymat des amphithéâtres et la faiblesse de l'encadrement pédagogique d'une part, l'aspiration à se vivre comme un intellectuel d'autre part, enfin la situation de transition que constitue le statut d'étudiant. Alors pour présenter ces trois points, je m'appuie sur les travaux de Bourdieu et Passeron essentiellement dans Les héritiers et la reproduction. Donc évidemment, ce sont des études qui sont datées. Donc je m'appuie dans un premier temps sur ces travaux-là. Et par la suite, je commencerai à le faire, mais Jérôme et Bertrand y reviendront. Nous insisterons évidemment sur ce qui distingue ces étudiants étudiés par Bourdieu et Passeron à la fin des années 50 et au début des années 60 et ce qui les caractérise en propre aujourd'hui. L'anonymat et les faibles, première de ces dimensions, l'anonymat et les faibles contraintes pédagogiques à l'université convergent pour extraire l'étudiant des cadres, notamment temporels, de la vie ordinaire. La parenthèse ouverte par les études les affranchit momentanément des rythmes de la vie familiale et professionnelle. Retranchés dans l'autonomie du temps universitaire, ils échappent aux horaires de la société globale, ne connaissent d'autres échéances que le jour de l'examen et d'autres horaires que celui des cours, horaires, vous le savez certainement tous, qui sont évidemment avec des variations selon les disciplines, mais souvent assez peu contraignants. La condition d'étudiant permet donc de briser les cadres temporels de la vie sociale ou d'en inverser l'ordonnance. S'éprouver comme étudiant, c'est d'abord, pourrions-nous dire, se sentir libre d'aller au cinéma n'importe quand et donc jamais en même temps que les autres. C'est jouer à méconnaître l'opposition entre le week-end et la semaine, le jour et la nuit, le temps consacré au travail et le temps libre. En d'autres termes, et plus généralement, l'étudiant tend à dissoudre toutes les oppositions qui organisent la vie ordinaire en la soumettant à la contrainte. En ce sens, la vie universitaire apparaît comme l'occasion d'une mise en suspens des habitudes sociales les plus ordinaires. Mais l'étudiant est aussi un apprenti intellectuel, ou tout du moins tend-il à se vivre comme tel. Or, l'aspiration à devenir un intellectuel s'exprime d'abord par une identification à l'image que les étudiants se font de l'intellectuel, caractérisée d'abord par l'exercice de la liberté de penser. Ainsi, les étudiants décrits par Bourdieu et Passeron se veulent en rupture. S'ils s'engagent et entendent s'engager à contre-courant et à contre-pente, obéissant au conformisme de l'anticonformisme, selon l'expression de ces deux auteurs, c'est d'abord parce que les valeurs du dilettantisme et de la désinvolture leur apparaissent en affinité avec l'idéal de l'intelligence sans attache et sans racine qui les mobilise. Enfin, il apparaît important de rappeler, troisième point, que la situation de l'étudiant est une situation de transition et non un statut définitif. Derrière la variété des positions, des prises de position, des styles vestimentaires, etc., Bourdieu et Passeron affirment que les étudiants se ressemblent surtout par la nature du rapport qu'ils entretiennent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Si les comportements auxquels l'observateur reconnaît communément l'étudiant sont d'abord des comportements symboliques, c'est-à-dire des actes par lesquels l'étudiant témoigne devant les autres et devant lui-même de son aptitude à être l'auteur d'une image originale de l'étudiant, c'est qu'il est condamné par la condition transitoire et préparatoire où il est placé à être seulement ce qu'il projette d'être. Ou mieux, et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il faut retenir, il est placé donc à être un pur projet d'être. C'est prendre le plus de distance possible avec l'idée insupportable d'une quelconque détermination, d'un quelconque destin, c'est refuser une nouvelle fois tous les classements et l'idée de classement elle-même. Donc, ouais, je ne vais pas plus loin sur ce point-là. En tout cas, j'avais terminé sur ce qu'on peut définir d'une part comme l'utopisme et d'autre part, quels sont les éléments qui semblent prédisposer, les éléments qui caractérisent la situation de l'étudiant, qui semblent prédisposer donc à ce rapport spécifique au monde, donc cette mise en suspens des classements. Alors, deux points que je résume, du coup, que je ne développe pas du tout. Ce qui change par rapport à ce que décrivent Bourdieu et Passeron dans les années 50 et 60, essentiellement, donc vous le savez, c'est la massification universitaire, l'accès à des enfants d'origine moins aisée à l'enseignement supérieur, ce qui a deux effets essentiels. D'une part, c'est que ce rapport, cette mise à distance des classements et des contraintes sociales est certainement moins évidente qu'elle a pu l'être dans les années 50 et 60, puisque évidemment l'inquiétude de l'avenir est plus importante. Et puis par ailleurs, évidemment, l'un des effets de cette massification, je ne détaille pas non plus, mais c'est des formes de déclassement qui conduisent à un rapport, notamment à la question scolaire, peut-être plus réaliste que ce qu'elle a pu être auparavant. Et puis, un dernier point, mais je le développe encore moins, c'est le rapport aux politiques. Simplement pour vous préciser que ce qui se dit généralement de la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est totalement dépolitisée. Ce sur quoi on pourrait revenir longuement, notamment ce que notre enquête a montré, les données qu'on a pu recueillir à ce sujet-là, montrent plutôt moins, en tout cas, une jeunesse dépolitisée qu'une jeunesse méfiante et distante par rapport aux institutions politiques et à la représentation politique, puisqu'il s'agit, dès qu'il s'agit, au contraire, simplement de se positionner ou, par exemple, de manifester, on a des taux de réponse, en tout cas dans les enquêtes qui ont été réalisées à ce sujet, plutôt plus élevées que cela n'a pu l'être. Voilà, je termine sur ce point.
Merci. Je peux prendre... prends la parole juste avant de continuer le propos qui vient d'être présenté ici, juste pour rappeler que l'enquête que l'on vous présente aujourd'hui à Troyes est une enquête collective qui a engagé plus de monde que nous trois. Et je précise juste qu'il y en a deux dans la salle qui sont là, c'est Nicolas Le Foll et Mathieu Morichon. Voilà. Cette précision est en fait, pour m'inscrire évidemment dans ce qui vient d'être présenté, Bertrand et moi, on va donc revenir sur une espèce d'analyse de ce mouvement en essayant donc de s'interroger sur les conditions de production d'un mouvement original, d'une certaine façon. Alors pour ma part, je vais essayer de rappeler simplement le début du mouvement, non sans avoir rappelé les conditions antérieures à l'existence de ce mouvement. Alors, de façon très rapide, premier élément, Romuald l'a souligné, c'est la massification, cette massification scolaire, on parle de massification, c'est évidemment l'augmentation du nombre d'étudiants, mais c'est aussi l'élargissement du recrutement social des étudiants. Cette massification, elle s'opère de façon différenciée en fonction de la taille des villes. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les villes les plus mobilisées dans ce mouvement dit d'opposition au CPE, ce sont les villes les plus moyennes, celles dans lesquelles la part relative des classes moyennes et surtout des classes populaires est plus importante que les grandes universités parisiennes. Deuxième élément de contexte d'apparition de ce mouvement, c'est d'une certaine manière l'héritage politique et militant des luttes à l'université de Poitiers. On n'a pas le temps de s'y attarder tout de suite, mais il faudra garder à l'esprit que en 2003, 2004 et avant, l'université de Poitiers était le théâtre de mobilisations dont certaines formes ont pu ressurgir au cours de ce mouvement de 2006. En tout cas, c'est donc dans ce contexte, dans ce double contexte spécifique, que la mobilisation va prendre forme. Alors, comment cette mobilisation a-t-elle pris forme ? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que contrairement à ce que l'on peut retenir quand on entend mouvement contre le CPE, c'est que le mouvement à Poitiers, c'est d'abord un mouvement simplement une mobilisation contre la réduction des postes en concours de l'enseignement, notamment en STAPS et en histoire. Le début du mouvement, il est vraiment là, hein, les premières mobilisations. Et ce n'est suite à l'annonce de la création du CPE que va se constituer, sur cette base mobilisée, mais en train un peu sur le déclin, un espèce de premier front unitaire dans lequel on va trouver une poignée d'étudiants. Certains sont des militants au MJS, au Vert, à Attaque Campus, à la CNT, d'autres ne sont absolument pas militants. Mais en tout cas, ce premier petit groupe va être une occasion, une première structure dans laquelle ces étudiants vont pouvoir investir leurs expériences militantes ou d'animateurs parfois. Et puis, après donc la formation de ce premier petit groupe, Villepin, dans les débats à l'Assemblée nationale, annonce qu'il, comme expression consacrée le dit dans les journaux à l'époque, dégaine son 49-3. Manière de faire va susciter une réaction très vive, parce qu'elle est perçue comme un passage en force. La question que vont se poser ce premier groupe d'étudiants, c'est que faire ? C'est que faire ? Que faire ? Ça va susciter des débats assez forts, notamment parce que dans ce groupe-là, qui se conçoit vraiment comme un front unitaire, par-delà les appartenances militantes, ces étudiants-là ont un attachement réel au processus démocratique et envisagent une première solution de façon difficile. Cette première solution, c'est le blocus. Malgré tout, ils vont décider de le mettre en place, ce blocus. Alors, pour quelles raisons ? On peut en avancer quatre, très rapidement. D'abord, on peut rappeler que Rennes l'a voté, Rennes 2 l'a voté quelques jours auparavant. Ça renvoie également à des formes de lutte, comme je le disais tout à l'heure, expérimentées en 2003, en 2004. Et puis surtout, ça permet, deuxième élément, à tous les étudiants d'être placés dans une situation identique. En faisant le blocus, pas de risque pour les étudiants les plus mobilisés d'être sanctionnés, soit directement, soit indirectement, par le fait qu'ils n'aient plus en cours. Voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Troisième élément, cette imposition du blocus n'est pas perçue comme une violence. elle n'est pas envisagée comme une violence, mais plutôt comme le moyen de permettre à la communauté étudiante ainsi constituée de s'exprimer et donc de lui donner une existence. Enfin, quatrième élément, dans la suite un peu de cette mise en place du blocus, alors je ne reviens pas sur les conditions matérielles concrètes dans lesquelles ça s'est passé, voilà, le blocus est mis en place tôt le matin, s'ensuit une période un petit peu de flou, ensuite une AG est décidée et convoquée très rapidement l'après-midi, une AG qui réunit 1600 étudiants, et le blocus est légitimé par cette Assemblée Générale, puisque seulement 75 étudiants votent contre le blocus. J'en suis où ?
J'ai pas quand même...
6 minutes.
6 minutes ?
Passé.
Bon, je lis le nom d'extrait étudiant, puis après je vais aller vite. Alors, il y a ce processus qui est quand même un acte fondateur. C'est pour ça qu'on s'attarde dessus. C'est quand même un acte fondateur, parce que ça fonde l'existence de cette collectivité étudiante, en mettant tous les étudiants dans la même condition. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attarder dessus. Et puis juste, donc je lis un extrait d'entretien. Donc c'est un extrait d'entretien de Freddy, qui est étudiant en L2 de lettres, qui par la suite va devenir une des figures de proue du mouvement, donc, qui revient donc dans son entretien sur cet épisode du blocus. Eh bien, le jour du blocus, je me suis dit, oh putain, merde, les cons. Donc, du coup, le lundi, j'arrive là et tout est bloqué. Bon, ok. Alors là, j'ai compris qu'il y allait avoir une radicalisation. Et puis, j'en ai parlé autour de moi, à des potes, mais aussi à des profs. Et on a discuté de ce qui se passait et tout. Et puis, bon, sur le fond, franchement, j'étais bien partant pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis, comme j'avais vu qu'il n'y avait pas forcément un discours politique derrière, mais un discours social, ça, c'est extrêmement important. Pas un discours syndical non plus, mais vraiment un discours sur le fond du problème. Moi, ça m'a intéressé. Il y a eu une manif dans la foulée, le mardi, je crois. Et là, c'est la première fois que j'ai pris la parole. C'était juste après l'AG, en fait. Et j'ai dit, ce serait bien qu'on se bouge et qu'on aille bloquer la gare. Et donc, on est allé bloquer la gare. Et à partir de là, je suis venu aux réunions de coordination, et etc., etc. Je coupe. S'en suivra, après le retour des vacances de février, qui arrive tout juste derrière, un vote avec la présidence de l'université décidé dans des conditions très difficiles. Et à partir de ce vote, avec la présidence de l'université que les étudiants emporteront de justesse, le blocus obtiendra une espèce de légitimité démocratique institutionnelle qui ne sera plus remis en cause jusqu'à la fin du mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, très rapidement pour conclure, sur ces quelques situations, début de cette mobilisation ? Première chose importante à retenir dans notre problématique, c'est que le mouvement s'élabore et s'élargit sur une base avant tout sociologique, par une ressemblance du point de vue, par un sentiment de ressemblance du point de vue des conditions de vie subsumées sous le statut d'étudiant. En tout cas, ce mouvement se fait plus sur par rassemblement de conditions sociales, en tout cas plus que sur des positions explicitement pensées comme politiques. Deuxième élément de conclusion, après je te passe la parole. De manière très présente dès le début, il y a cette idée d'unanimisme, cette idée de démocratisme et cette idée de dépasser les frontières militantes. Celui de faire exister une collectivité étudiante, une espèce de groupe qui d'ordinaire est plutôt perçu comme quelque chose de disloqué, Rommel en a parlé. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que des formes spécifiques de mobilisation vont se déployer.
Voilà, donc on vous a parlé des hypothèses de notre cadre d'analyse, on vous a parlé des prémices du mouvement, et donc moi je vais vous parler un peu plus de ce que pensent, de ce que font, de ce que disent les étudiants, et de ce en quoi on peut invalider les hypothèses de tout à l'heure. Et donc d'une certaine façon... Je vais vous parler du contenu utopique du mouvement étudiant Poitevin de 2006. Alors pour en rendre compte, il faut tout d'abord évoquer le contenu revendicatif, Jérôme en a parlé, et le degré auquel ce contenu échappe ou non au déjà-là politique et social. En rappelant les deux revendications du mouvement à l'échelle locale, le retrait du CPE et la loi égalité des chances, avec le CNE également, et la restitution des postes initialement programmés pour les concours, auxquelles s'ajoutent des revendications sur l'éducation qui proviennent en partie des lycéens, notamment autour du socle commun de la loi Fillon. Et au fil de la mobilisation, ce cahier revendicatif devient le support d'un discours portant sur la question du travail et sur celle de l'éducation, les domaines étant explorés à la fois distinctement et en relation l'un avec l'autre. Alors que disent les étudiants ? Sur la question du travail, en lien avec le rejet du CPE et de la loi égalité des chances, mais aussi pour une part avec l'exigence de restitution des postes, le mouvement est pour l'essentiel défensif, comme disent les militants. Si le refus de l'assignation à la précarité, qui est décisif dans le sentiment d'exaspération qui permet le démarrage de la mobilisation, si donc ce refus de l'assignation à la précarité définit en quelque sorte en creux l'exigence d'une autre organisation économique, celle-ci, en fait, n'est que faiblement explorée collectivement, et la figure principale du discours est celle de l'attachement à des emplois stables, comme ceux de la fonction publique. Sur la question éducative, en revanche, question qui va être de plus en plus défendue comme prioritaire tout au long du mouvement, le discours est davantage prospectif. Il s'agit à la fois de redonner priorité à l'éducation et de défendre une conception moins utilitariste de la connaissance, et à partir de là, de remettre en cause les fonctionnements les plus routinisés de l'institution scolaire. Et donc les étudiants vont mettre en place pendant les 8 semaines du blocus, si ma mémoire est bonne, des réunions débat dans l'objectif de mettre sur pied un contre-projet éducatif, donc projet extrêmement ambitieux au départ. Les enseignants du premier et du second degré, les parents d'élèves, les syndicalistes, les militants de l'éducation populaire sont invités à y participer, et les enseignants-chercheurs spécialistes des questions éducatives sont également engagés à venir partager leur savoir. Le curriculum, mais aussi les rapports pédagogiques vont être discutés dans ces réunions. Une conception commune se dégage peu à peu, à la fois inspirée par les pédagogies nouvelles, tout en demeurant exigeante du point de vue du niveau des connaissances et attentive aux inégalités sociales. Mais de fait, cette vingtaine d'étudiants qui a pris en charge ces réunions débat et ce contre-projet éducatif peinent à mettre en mots cette conception éducative. Et de fait, si ces débats irriguent le mouvement plus largement et contribuent à sa légitimation, ce contre-projet ne verra pas le jour et le discours lui-même restera relativement vague autour des questions éducatives. Les hiérarchies scolaires et le fonctionnement du système d'enseignement ne demeureront par là que faiblement interrogés. En réalité, là où le mouvement va s'inscrire de façon massive et clairement revendiquée en rupture avec l'organisation sociale actuelle, c'est bien davantage dans le domaine politique, en lien avec les pratiques de mobilisation elles-mêmes. Ainsi, au fil de l'action et des conflits avec la présidence de l'université, les étudiants mobilisés définissent peu à peu un style politique revendiqué comme démocratique et pacifiste. On voit ce style d'ailleurs à l'œuvre dans l'ensemble des villes mobilisées en 2006, même s'il trouve à Poitiers une expression en quelque sorte plus radicale en lien avec les spécificités de la mobilisation à l'échelle locale. Alors, première dimension de ce discours politique, de ce style politique, avec à chaque fois des pratiques qui viennent donner corps, ce discours se distingue donc tout d'abord par la revendication d'un mouvement sans étiquette, conçu comme une garantie d'un mouvement authentiquement démocratique, car fédérateur, et en prise directe avec les aspirations de la totalité du groupe. Ce discours s'est ébauché dans la mise en place du blocus, qu'évoquait Jérôme tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, puisqu'il s'agit en quelque sorte de faire appel, même si c'est à une minorité qu'on bloque, immédiatement le discours qui se met en place sur les points de blocus, c'est l'appel à la communauté qui doit décider de son sort, puisqu'il y a matière à décision, et on se plie à la décision de la majorité. Mais avec le sentiment qui va intervenir de plus en plus fortement dans le discours, que cette attitude est la bonne parce que c'est les luttes pour la représentation, d'une façon générale, les pratiques syndicales seraient en quelque sorte par nature porteuses de division. Un type différent de politisation est revendiqué, posé comme une alternative aux formes dominantes de la vie politique et syndicale, perçue comme ennuyeuse, sclérosée, factice, stérile. Certains vont définir même paradoxalement ce style comme une forme d'apolitisme. Les plus militants vont le définir de façon plus fine comme un principe politique qui serait propre à la génération en lutte, un principe qui refuse autant les marques politiques et les marchandes politiques que la consommation à tout va et la publicité. Cette transposition du no-logo dans l'univers des luttes sociales est alors conçue comme porteuse d'un renouveau de la démocratie. Deuxième composante de ce discours politique, qui relève de ce que les membres de la coordination appellent le pacifisme des débats, encore très présent dans les mouvements actuels. Cet élément du discours de mobilisation forme le lien entre des pratiques comme l'usage d'un langage de signes et des opérations de vote fondées sur le principe du suffrage universel, l'utilisation d'un vote individualisé et quasiment secret, et la place inhabituelle laissée aux opposants. en donnant largement la parole à leurs adversaires, ne serait-ce en certains cas que quelques minutes, et en minimisant bien sûr les effets d'imposition de la part des plus bruyants ou des plus expérimentés, mais en usant aussi d'un vote individualisé. Il s'agit en premier lieu de faire venir les plus sceptiques, mais aussi d'asseoir un fonctionnement d'ensemble dont les étudiants les plus mobilisés estiment qu'il a été une garantie de la quasi-absence de violence pendant les deux mois du blocus total. Là encore, ce principe est posé en opposition aux pratiques dominantes, aux pratiques du gouvernement, en l'occurrence, qui a recouru au 49-3 pour imposer son projet de loi. Troisième composante du discours, dimension de ce discours qui relève de l'autodérision et de ce que les étudiants appellent cette fois le pacifisme des actions. Cette dimension du discours a été très tôt symbolisée par le nez rouge, attribut retenu pour distinguer les membres des services d'ordre, que ce soit en assemblée générale ou lors des manifestations. Mais associé aux propriétés de la jeunesse, tout autant qu'à une façon bon enfant d'imposer l'unité la plus large, ce style, ce discours va s'étendre en réalité au-delà des nez rouges à toute une série de façons d'être et de faire qui s'opposent aux prétentions des dominants, à la morgue et au faux sérieux des adultes qui occupent le pouvoir politique. Si le style du mouvement exprime ainsi les dispositions les plus générales de la jeunesse scolarisée issue de la massification, il reste néanmoins caractérisé par des traits spécifiques. Je ne vais pas développer ce passage. Simplement, je signale au passage que, à nous entendre, on pourrait penser que les étudiants ne font là qu'exprimer ce qu'ils sont, hein, des jeunes pour une part issus des classes moyennes, issus de la massification scolaire, et qui sont dans la distance juvénile au monde adulte, etc. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que si on regarde leurs pratiques de lutte concrètes, notamment les pratiques d'élection ou de représentation, on voit que chaque mouvement se caractérise de façon un peu spécifique, et donc il y a matière à aller regarder dans les détails. Donc j'en viens à ma conclusion. On a vu le style, la façon dont le terrain politique était finalement le lieu même d'une opposition au mode de classement, au mode d'organisation sociale dominante. Mais je voudrais m'arrêter sur, au fond, deux points qui permettent de comprendre la façon dont s'est à la fois constituée et mise en forme la mobilisation, mais aussi les continuités, les discontinuités entre le mouvement de 2006, celui de 2007 contre la LRU et celui de 2009 contre le statut des enseignants-chercheurs, la masterisation, les réformes de la recherche et la diminution des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche, bref, tout ce qui découle en fait de la LRU. Alors, premier élément, donc, pour revenir sur ce que j'ai dit et sur l'hypothèse de départ, selon la définition que nous avons proposée de la production des espérances politiques et de leur dimension utopique, la distinction que j'ai soulignée entre les domaines du travail, de l'éducation et de la politique s'éclaire directement par les conditions dans lesquelles s'est développé le mouvement. D'un côté, la massification de l'enseignement supérieur, le brouillage de la valeur sociale des diplômes, mais aussi l'expérience du travail précaire par une large partie des étudiants, et puis encore, de façon plus immédiate, la mise en cause des débouchés par la suppression des postes au concours, les attaques contre le système d'enseignement dans ses finalités les plus universelles, ou encore l'assignation à la précarité par l'adoption même du projet de loi sur l'égalité des chances et la création du CPE. Tout ça nous permet de comprendre comment les étudiants sont, d'une certaine façon, portés à défendre les biens éducatifs comme des valeurs, tout en réinterrogeant les fondements. Une défense donc qui va de pair avec une forme de réouverture de la réflexion sur les pratiques, mais de fait avec une faible mise en cause des classements scolaires, des structures, de la hiérarchie du système d'enseignement. Les étudiants mobilisés sont à la fois portés à se détacher de l'état de l'institution, de la place qui est la leur dans le système, mais ils vont en même temps recourir à des experts pour venir parler du système d'enseignement. Et ils vont revendiquer la compétence pour parler des phénomènes éducatifs, mais d'une certaine façon, dans certaines limites, sans rupture radicale. Comme si, sur tout ce pan de leur discours politique, il y avait une forme d'auto-limitation du processus de détachement. En revanche, d'un autre côté, tout ce qui relève de la politique, du discrédit de la politique, de cette distance à la politique constituée, instituée, dont parlait Rommel tout à l'heure, mais aussi, on n'en a pas parlé, l'affaiblissement du militantisme étudiant, particulièrement important à cette époque-là dans une ville comme Poitiers. Mais il faudrait encore parler du contexte de l'altermondialisme dans lequel a grandi cette génération, et enfin du contexte électoral des élections de 2007, qui a vu cette génération se mobiliser pour défendre le suffrage universel, d'une certaine façon, contre les menaces de l'extrême droite. Tout ceci crée des conditions relativement inédites et qui font que là, au contraire, sur les biens politiques, en quelque sorte, la reconstruction est beaucoup plus radicale. Et vont se produire une conception alternative qu'on peut trouver illusoire ou non, c'est pas le problème, c'est le mouvement même par lequel les gens sont portés qui nous intéresse, en rupture avec les structures politiques, en revendiquant en quelque sorte une sorte de compétence politique universelle qui va être un moteur de la mobilisation elle-même et être de nature à remettre en cause à la fois le fonctionnement des institutions politiques et le fonctionnement du syndicalisme étudiant. Alors quand on redit tout ça de cette façon-là, on insiste sur la façon dont cette production utopique varie selon les domaines considérés dans un mouvement comme celui-ci, mais on insiste aussi beaucoup, en quelque sorte, sur les déterminants sociaux, sur la façon dont, d'une certaine façon, les choses étaient écrites dans les conditions mêmes dans lesquelles les étudiants se mobilisaient. Or, telle n'est pas exactement notre analyse. En étant attentif aux conditions dans lesquelles se sont mobilisés les étudiants, il faut également insister sur un deuxième point qui nous paraît tout aussi important, à savoir que sur ce que produit ce processus lui-même. Ce faisant, mettant en forme leurs discours et leurs revendications, mettant en forme leurs dispositifs de lutte, déployant ce discours au travers de tout un tas de pratiques quotidiennes pendant des semaines et des semaines, touchant des cercles de plus en plus étendus d'étudiants qui vont eux-mêmes s'approprier ce répertoire de pratiques qui s'est mis en place au cours des premières semaines, se réalise une forme d'apprentissage, de politisation, de fraction élargie du groupe étudiant, comme en atteste la mobilisation contre la LRU, qui a vu assez spontanément et contre les anticipations qu'avait pu faire l'UNEF, par exemple, qui a pu voir entrer sur la scène revendicative des fractions non négligeables du public étudiant, sans au départ le moindre soutien des syndicats majoritaires. On l'a vu de nouveau à l'œuvre au cours du mouvement de cet hiver et de ce printemps, puisque les revendications avancées étaient quand même extrêmement compliquées à défendre et difficiles à faire passer, pour que je termine, dans l'espace public. Et néanmoins, on a vu dans un certain nombre d'universités les étudiants être très compétents, parfois même plus que les enseignants-chercheurs, pour défendre ce cahier revendicatif, le mettre en musique et mettre sur pied un répertoire d'action, en certains cas particulièrement efficace. Ce n'est pas forcément le cas ici, on pourra en reparler, mais en tout cas, d'une façon générale, force est de constater qu'un apprentissage s'est réalisé, que 2006 a été en quelque sorte un tournant dans les mobilisations étudiantes et qu'on a vu par la suite une partie non négligeable des étudiants de plus en plus sur des positions assez radicales et portant à la fois sur les questions de politique, mais aussi, cette fois-ci, sur les questions éducatives. Et notamment, ce qui frappe, c'est le fait, notamment à travers l'organisation de cours alternatifs ou de conférences, d'universités populaires, etc., c'est que les prémices de ce que l'on avait vu se mettre en place en 2006 avec ces tentatives de réunion débat sur l'éducation, etc., se sont en quelque sorte approfondies au cours de ce printemps. Voilà, comme si il avait fallu en passer par là, en quelque sorte. Nous sommes passés par là pour notre analyse, pour décomposer le mouvement, mais d'une certaine façon, historiquement, ça fonctionne aussi comme ça. L'espace des possibles s'ouvre peu à peu et il est massivement investi par les groupes qui apprennent au fil de la mobilisation.
Bien, merci pour cette autodiscipline sur le temps. Merci aussi pour ce propos plutôt finalement optimiste. Je faisais juste une petite remarque sur l'emploi de l'imparfait, sur les revendications. J'imagine. J'aurais aimé le présent encore.
Ça, la semaine prochaine.
Bien, je laisse la parole. Voilà, je vais proposer le micro à la salle pour des questions. Y a-t-il des questions parmi un public justement très étudiant?
Oui, alors j'avais une question pour le dernier trio. Moi, ce qui m'interpelle dans l'objectif là, de votre travail, et puis pour avoir observé un petit peu aussi ce qui s'était passé sur Poitiers, de manière depuis quelques années, C'est vrai que cette exigence démocratique qui apparaît avec beaucoup de force encore dans le dernier mouvement, est-ce que vous êtes en mesure, en dehors du mouvement de 2006, il y avait déjà quand même un certain nombre de prémices déjà dans les mouvements de 2002-2003, et c'était des choses quand même qui étaient, pour les derniers mouvements auxquels j'ai participé à la fin des années 90, qui étaient très, très groupusculaires sur l'université, c'était des choses qui étaient complètement étrangères, ou presque. Et est-ce que vous arrivez à vous à saisir, à un moment donné, cette transition qui est progressive, en tout cas la première observation, ça apparaît progressive, est-ce que vous arrivez à saisir un petit peu les ingrédients qui mènent finalement en 2002 où l'exigence démocratique elle devient plus forte et à chaque mouvement, il y a de l'apprentissage politique d'une certaine manière, il y a une transmission et aussi peut-être poser la question des agents sociaux, est-ce qu'il y a des porteurs de pratiques d'une certaine manière, comment s'effectuent ces transitions là, parce que ça aurait pu être un mouvement isolé et puis pas les fois les événements qui se succédaient, et là en fait il y a une progression et des transformations, pas forcément un approfondissement mais en tout cas certaines vigilances à certaines règles de décision notamment.
C'est une question très compliquée et qu'on a cessé de se poser pendant toute cette recherche et qu'il faudrait évidemment continuer à travailler. C'est la transmission des pratiques. Nous, on a mieux parlé de pratiques que de répertoire d'action parce que la notion politiste de répertoire d'action nous paraît un peu étroite par rapport à la façon dont on peut, je sais pas si ça marche, la façon dont on peut observer les mouvements. C'est une question très difficile parce que si on en croit les journalistes ou même les étudiants ou même nous-mêmes, quand j'en ai parlé à l'époque, pour dire des choses un peu rapides, on est très vite porté à dire des choses un peu idiotes, à savoir que c'est nouveau, c'est une invention radicale, etc. Et en réalité, dès qu'on creuse un peu, et quand on va voir en 86, en 94, etc., on s'aperçoit qu'un certain nombre de pratiques étaient déjà en place, alors même que les étudiants ont eu l'impression de les inventer, qu'elles venaient de nulle part. Donc il y a une espèce de mémoire souterraine dans les mouvements étudiants, tout particulièrement, compte tenu de ce qu'est type de mobilisation étudiante avec des groupes militants très minoritaires mais qui parviennent à organiser des masses relativement importantes, et on voit le répertoire des pratiques ressurgir de loin en loin, donc il faut toujours rester extrêmement prudent sur ce truc là alors pour essayer de cerner les choses, par exemple sur les nez rouges, il semble que ce soit apparu très tôt, même en 86 il y a des choses un peu analogues, mais il y a eu sans doute une réactivation très forte à l'occasion des sommets altermondialistes, des rassemblements altermondialistes dans les sommets, etc., où là, il y a eu une mise en avant très très forte de ce type de pratique d'autodérision, de dérision à l'égard du pouvoir, etc. Bon. Donc là, on a une source à peu près identifiée, sinon de la création, en tout cas de la réactivation de ce type de pratique. Sur la question du vote, alors là, c'est assez surprenant et assez compliqué. Dans les années 70, et même ici à Poitiers, jusqu'au mouvement anti-LMD, qui était un petit mouvement un peu avorté, etc., en 2003 quand même, automne 2003, les pratiques de lutte, si je me souviens bien, étaient des pratiques qui étaient assez proches de celles des années 70. C'est-à-dire que le vote, c'était le vote de ceux qui sont pour le mouvement, et pas ceux qui sont contre. Donc ça paraissait tout à fait naturel. En tout cas, 15 ans plus tôt, c'était encore plus clair. Ça n'avait aucun sens de faire venir un non-gréviste à une assemblée générale. Donc il y a eu un basculement assez radical du point de vue des mobilisations étudiantes dans la période récente. Nous, le seul élément un peu probant qu'on ait trouvé, ce sont les élections de 2002. C'est-à-dire que la totalité des étudiants qu'on a interviewés en 2006 avaient participé aux manifestations de 2002. Certains avaient aussi participé au sommet, au rassemblement altermondialiste, d'autres aux manifestations de 2003, etc. Mais le seul point commun générationnel, c'est vraiment 2002. Donc notre hypothèse, c'est que ce contexte électoral très particulier de 2002 a quand même été, avec d'autres éléments, mais un élément de légitimation du suffrage universel, bon, qui s'appuie aussi sans doute sur des dispositions de cette génération à une certaine civilité, des mœurs très dialoguées, beaucoup plus sans doute que la génération des années 70. Donc tout ça faisait sens assez immédiatement dans la façon dont ça pouvait se traduire dans les pratiques de lutte. Est-ce que, alors en même temps c'est contradictoire dans ce que je viens de dire, 2002, mouvement de 2003 c'est pas forcément le cas, et 2004 ça apparaît à Poitiers, et 2006 ça redouble dans toute la France. Bon. Il semblerait même que dans certaines villes, ça soit un peu antérieur à 2003. Donc, il y a sans doute eu des ébauches de type de vote de ce type-là, sans doute au début des années 2000, mais dont on peut dire que ça s'est renforcé avec, dans l'esprit des individus concernés avec l'épisode 2002, et ça s'est déployé comme un type de pratique très fort en 2006. Et autant on a vu le répertoire de pratiques évoluer très fortement de 2006 à aujourd'hui sur certains domaines, et sur les discours, hein, aujourd'hui on revendique beaucoup plus, par exemple à Poitiers, des affiliations ou en tout cas des orientations un peu en rupture par rapport à la majorité étudiante. Là, il y a vraiment une différence par rapport à 2006, je pense. Ce n'est pas forcément partout le cas. À Amiens, où je suis, ce n'est pas du tout comme ça. C'est très, très proche de 2006, parce qu'il y a eu une permanence du dispositif militant, ce qui n'est pas le cas à Poitiers. Bon. Mais autant ça change dans certains registres, autant sur la question du vote et du côté dialogue, etc., etc., pour le peu que j'ai observé ou qu'on m'a raconté sur ce qui se passe actuellement à Poitiers, j'ai employé le présent, là, on est quand même toujours dans cet état d'esprit, c'est-à-dire des pratiques d'un grand respect, d'une grande écoute, etc., qui sont pensées comme le fondement même du mouvement qu'il s'agit de construire. Voilà, enfin, pour une réponse déjà trop longue, mais un peu courte. Mais c'est de fait des choses assez compliquées à étudier, et en tout cas, voilà comment nous, on a essayé de les traiter.
Moi, je voulais demander à Gérard Mauger, justement, si, par rapport aux mouvements qui sont succédés dans la période post-68-art, donc au début des années 70, les différences significatives qu'il voyait par rapport aux mouvements de ces dernières années.
Oula.
Si on piète.
Oula.
On demande la même chose qu'on a demandé aux historiens.
Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas vraiment très simple. Comment dire ? D'abord parce qu'il faudrait sans doute distinguer des registres, hein, de lutte extrêmement différents. Il y a, il y a un trend de lutte ouvrière de longue durée, ce qu'a montré Xavier Vigna récemment, que j'ai mentionné, je crois, tout à l'heure rapidement, qui montre que la grande grève de 68 n'intervient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais précédé déjà de grèves très, très dures, hein, qui remontent au moins au début des années 60. Bon. Donc il y a cette histoire de montée des luttes ouvrières qui connaît une espèce d'apogée comme ça en mai juin 68, mais qui se poursuit d'ailleurs très, très longtemps après, jusqu'au moins, au moins la deuxième moitié des années 70. Là, ça commence à... L'offensive change de camp, pourrait-on dire. Voilà, on pourrait dire ça comme ça rapidement. Il y a d'autre part, c'est ce à quoi moi j'ai participé pour mon compte, les luttes qu'impulsent à leur manière les groupes d'extrême gauche de l'époque, qui sont des luttes complexes, parce qu'on les décrit volontiers comme stricto sensu ouvriériste, c'est pas vrai, quoi, c'est plus compliqué que ça, quoi. Par exemple, je sais pas. Moi, j'ai participé à des choses qui ressemblent très fort à ce que fait le DAL, par exemple, le logement, par exemple, occuper les maisons vides. On avait fabriqué des choses comme ça, des luttes antiracistes, des machins comme ça. On avait fait aussi des choses de ce type-là. Donc, voilà, mais qui avait un caractère, une rhétorique de classe très combative, dure, quoi. Bon, voilà. Et qu'on retrouve pas vraiment aujourd'hui, peut-être. Ça m'amuse de voir, par exemple, les séquestrations là, dont on parle beaucoup à la radio. Quoi. À l'époque, c'était assez banal, quand même. Hein. Nous, on gueulait, on a raison de séquestrer les patrons. Quoi. À la question, on répondait clairement. Hein. On ne disait pas, non, mais il faut les comprendre, machin, mais bon, non, on disait, on a raison de... Bon, voilà. Voilà, c'était un style, c'est vrai, un peu offensif, sans doute passablement différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Quoi. Bon, alors, il y a ça. Il y a ce volet-là. Et puis, il y a un deuxième volet qui se fait jour aux alentours de 72-73, que moi, j'ai appelé le gauchisme contre-culturel, quoi, bon, qui est la montée de tous les apparitions, hein, de tous ces fronts de tout poil, ou qui ça ressemble très fort à ce dont une des historiennes parlait ce matin, quoi. Ça me faisait penser beaucoup, beaucoup, quoi. Bon, voilà, c'est les communautés, le retour à la terre, machin, bon, la fuite vers l'ailleurs, tout ça. Bon, et tous ces nouveaux fronts de lutte qui s'ouvrent à cette époque-là, dont un évidemment tout à fait important, le mouvement féministe qui se fait jour, pas en 68, hein, c'est après, c'est une erreur chronologique, c'est que dater ça à 68, c'est après, quoi. C'est 71-72, hein, qu'apparaissent, bon, mais centralement le mouvement féministe, mais aussi des tas d'autres dont on parle encore aujourd'hui, hein, qui sont poursuivis très très longtemps, quoi. Je sais pas, moi, le phare, par exemple, le mouvement homosexuel d'action révolutionnaire, machin, voilà, tout ça, ça apparaît à la même époque, hein, c'est-à-dire tous ces mouvements, on pourrait dire identitaires, pour faire vite, qui se font jour et dont les prolongements qui se sont prolongés au moins jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore vivants, je pense, aujourd'hui, et qui constituent, au fond, un certain type de fonds de commerce de lutte qui sont toujours actuels, quoi, les luttes qu'on pourrait dire identitaires de différents types de mouvements sociaux, alors que la fibre ouvrière, ouvriériste, pourrait-on dire, pour faire vite, mais c'est plus compliqué que ça, je pense que ce serait trop vite dit comme ça, semble s'être tarie. Bon, voilà ce que je pourrais dire comme ça rapidement, hein, mais trop rapidement. Il faudra aussi, par exemple, suivre l'histoire des mouvements lycéens et étudiants, quoi, bon, qui sont poursuivis aussi, quoi. Je me souviens par exemple du mouvement des lycéens contre la loi Debré, avec, vous savez, l'entonnoir sur la tête là. Bon, voilà, ça, c'est pas sans parenté avec ce dont vous parlez aujourd'hui. C'est qu'il y a une tradition aussi de longue durée, hein, de ces mouvements des jeunes étudiants et lycéens qui aussi étaient vivantes à cette époque-là, qui s'est poursuivie elle aussi pendant longtemps. En fait, voilà, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire que le grand absent, voilà, on pourrait dire, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, peut-être ça a repoussé, je ne sais pas, hein, le grand absent, je dirais, c'est les luttes ouvrières dures, quoi, voilà, hein, qui étaient de caractéristiques, quand même très fortement caractéristiques, qui focalisaient l'attention dans l'après 68, et qui se sont petit à petit, bien que ce soit disparu, hein, mais on en parle beaucoup moins, elles focalisent beaucoup moins l'attention, voilà, je dirais ça, quoi. Mais ça vaut ce que ça.
Hein. Économique.
Bien sûr, ça a bien sûr évidemment tout à voir avec la montée du chômage de masse, la précarisation, les nouvelles formes de management, etc. Tout ça, le déclin aussi des organisations ouvrières aussi, hein, le déclin du PC, de la CGT. Bon, enfin, tout ça a à voir avec bien des choses, évidemment. Mais, oui, tout à fait. Hein.
Et parallèlement, la transformation également du public.
Oui. Aussi, pour ce qui est des étudiants, évidemment, c'est aussi un public qui change beaucoup. Hein, un public d'héritiers, d'étudiants héritiers et quelques miraculés dont j'étais. Bon, voilà. Oui, ça a changé aussi beaucoup. Hein, c'est un autre public, effectivement, aujourd'hui, dans le monde étudiant, bien sûr.
Je peux poser ma petite question, mais je m'excuse parce que je suis sortie un petit peu, j'étais allée surveiller les livres, mais j'en ai eu marre parce qu'ils ne bougeaient pas beaucoup, alors je suis revenue. Donc, je n'ai peut-être pas bien écouté. Ma question, c'était autour de... Enfin, je m'interroge, donc je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité, on dirait, de la France de l'Ouest dans les formes de mobilisation étudiante qu'on peut voir ces derniers temps, et notamment à Poitiers. Et, donc, est-ce que ça a à voir avec des formes plus amples de mobilisation dans cet espace régional, enfin, et dans les formes, avec les formes aussi de sociabilité du Grand Ouest, notamment une très faible prégnance du marxisme et de la tradition aussi ouvrière, y compris des forces auxquelles tu viens de faire référence, PC, CGT, d'autres formes d'imprégnation culturelle. Moi, je pensais à une présence d'un christianisme de gauche, enfin, etc. Donc, je voulais savoir, je ne sais pas, vous l'avez peut-être abordé, hein, je m'en excuse, si vous pensez que ces formes, elles avaient quelque chose de spécifique, on pourrait dire en gros, dans ce qui correspond à la France rose depuis les années 2000. Tu
as un peu répondu là. C'est, parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'éléments. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est distinguer les variables sociales et les variables politiques. Alors nous, sur le plan des variables sociales, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé l'université Poitiers par rapport à la France entière. Mais il faudrait faire une analyse différentielle de la composition sociologique des différentes universités. Malgré tout, Poitiers n'est pas parmi les plus populaires. enfin, elle est parmi les plus populaires, mais pas à la pointe extrême. Hein. Il y a des universités où de la composition est encore plus populaire. Mais ça fait partie quand même, grosso modo, de cette partie des universités. Donc ça, on l'a pris en compte. Ça nous paraît un élément important, même si ceux qui sont à la tête de la mobilisation à Poitiers sont quasiment exclusivement, en 2006, issus des classes moyennes. Ce qu'on peut expliquer par le fait qu'il n'y a pas d'appareil militant, de lieu d'apprentissage, des pratiques, etc. Bon. Mais voilà, donc ça c'est un premier élément, mais ça ne suffit pas parce que ce qui est vrai dans l'Ouest pourrait être vrai dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud, encore plus. Bon. Donc il y a sans doute une variable politique. Si on voit le cas de Nantes, par exemple, où se sont perpétuées des pratiques de lutte étudiante assez vigoureuses, mais Rennes, aujourd'hui, peut-être plus encore que Nantes, on voit qu'il y a effectivement des régions où le passage à gauche et les pratiques de politisation à gauche sont plus récentes que le nord de la France ou le sud-est. Et en tout cas, il n'y a pas eu le même type de vieillissement politique, on pourrait dire, que dans ces autres régions. C'est une hypothèse un peu sauvage que je fais, mais qui correspond à ce que tu dis sur le vote, sur les élections, où on retrouve des tendances analogues. Donc il y a sans doute, mais il faudrait le vérifier encore une fois, le croisement entre cette variable sociologique, enfin sociale, et cette variable politique. Et puis après, à l'intérieur, la grande différence entre Rennes et Poitiers, par exemple, en 2006, c'est les deux villes où démarre le mouvement à quelques jours d'intervalle, et où le mouvement acquiert la même importance. La grande différence, c'est l'existence d'un appareil de mobilisation très très fort avec toutes les tendances de l'UNEF, etc., à Rennes et d'autres, Sud, etc., et à Poitiers, quasiment rien, quoi. C'est-à-dire quelques étudiants qui se mettent avec le président pour aller être élu comme vice-président, mais quasiment rien d'un point de vue militant. Et du même coup, je dis des choses qu'on n'a pas dit, j'en profite pour les dire, du même coup, nous, notre modèle d'analyse, c'est que, au fond, la force de cette faiblesse, ça a été que, dans ce cas-là, les processus générationnels se sont exprimés de façon encore plus forte que dans les autres villes. Mais parce qu'il y a eu aussi la conjonction d'un certain nombre d'éléments favorables, le mouvement de 2004, la sensibilité au poste au concours, le fait qu'il y avait des staffs mobilisés, le fait qu'il y avait quelques individus qui avaient des dispositions charismatiques, en tout cas prophétiques, relativement singulières. Donc tout ça a fait que ça a pu prendre, mais que du coup ça a pris dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Et en revanche, après, ça a été beaucoup plus difficile de repartir sur des bases analogues, alors que dans d'autres villes, la perpétuation des pratiques de lutte a pu être plus facile qu'à Poitiers. Bon, mais ça, ce n'était pas ta question, mais j'en profitais pour le dire. Mais évidemment, il faudrait pousser plus loin l'analyse, et malheureusement, on n'a pas assez d'études là-dessus. Voilà, non. On a des enquêtes actuellement. Alors, le propre des travaux sur les étudiants, c'est qu'il y en avait plein qui étaient commencés et il n'y en avait pratiquement aucun qui était terminé, parce que c'était souvent des militants qui militaient et qui finissaient pas leur thèse. Donc, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Il y a un peu de choses historiques, mais en sociologie, il y a assez peu de travaux en réalité, alors qu'on voit beaucoup de propositions de travaux étudiants sur cette question-là. Bon. Et ça commence. Donc, à partir de 2006, il y a eu des travaux, mais pas sur, à ma connaissance, pas sur l'Ouest. Et ça serait très intéressant. Il y en a sur Paris 13, sur Strasbourg, sur Lyon, je crois. Enfin, et on est en train de faire les comparaisons. Mais malheureusement, on n'a pas la Bretagne.
D'autres questions ? Voilà, je crois que pour des raisons de temps et de salle, on ne va pas pouvoir... Voilà, je pense que ça va être une des dernières questions.
Oui, sur la proposition que le blocus a permis de faire un acte fondateur pour la communauté étudiante. C'était Jérôme qui avait dit ça, je crois. Est-ce que ça pourrait être expliqué un peu plus ? Parce que donc auparavant, à la fois il y avait une communauté étudiante qui était plus faible, et donc certes, personne n'aurait pensé faire intervenir un opposant à un mouvement dans le mouvement. Mais en même temps, sans doute, il y a une proximité immédiate plus importante qui allait de soi. Donc, est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que c'est parce qu'il y a un effet... Est-ce que c'est à cause de d'un certain niveau de la matification qu'il faut un acte fondateur de la communauté étudiante symbolique de manière importante puisque ça paraît comme étant réellement nouveau, si j'ai bien compris. Merci. Ah oui, notre question, c'est sur par rapport à Poitiers, au moment du mouvement... sur l'image du mouvement de Poitiers... dans la presse, c'était Enfin, notamment l'article du Monde insistait beaucoup pour dire que c'était très propre à Poitiers et qu'ailleurs c'était un peu voyou. Quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
Je fais la première. Oui, alors je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais ce qu'on peut dire de plus sur ce qu'on appelle l'appel à la communauté étudiante, c'est deux choses là aussi, deux explications possibles qu'il faut sans doute articuler, mais qui ne sont pas du même registre. La première, c'est que, premièrement, les étudiants ont un sentiment politique beaucoup plus affirmé que ce qu'on dit souvent, bon, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont des opinions, ils ont des allergies à des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont des opinions sur ce qui se passe à l'université, mais ça ne prend pas forcément la forme d'un engagement politique. Donc il faut quand même des conditions exceptionnelles pour que ça se cristallise en une mobilisation, surtout dans le contexte de 2006. Aujourd'hui, ça devient plus routinisé, c'est un peu différent. Mais à l'époque, c'est vraiment ça. On est après un grand trou depuis 1995. Il n'y a pas eu de mouvement majoritaire dans les universités. 2003, il y a eu un mouvement sporadique sur le LMD, mais pendant toute l'année. Donc c'est la première fois en 2006 qu'il y a un mouvement de cette ampleur. Et donc il faut tout réapprendre. Donc il faut vraiment qu'il y ait des conditions particulières pour que ça marche. Et s'adresser à la totalité du groupe étudiant, c'est évidemment un ressort très, très fort. Il ne suffit pas d'agréger autour de groupes militants qui convaincraient leurs proches, etc. Ça ne marche pas. Et ça marche d'autant moins qu'il y a quand même un grand légitimisme que j'évoquais tout à l'heure à l'égard de l'institution universitaire. C'est-à-dire qu'en cours, on prend des notes, on pose des questions aux profs, etc. Mais il y a assez peu, je m'excuse si je caricature, on me corrigera, mais il y a un grand souci de l'examen, de la réussite à l'examen, une certaine, je ne vais pas parler d'angoisse, ça c'est le discours médiatique, etc. Mais enfin, il y a une incertitude. Et surtout quand à chaque mouvement dans les universités, le pouvoir politique passe son temps à dire « mais ça ne sert à rien, c'est fait de sociaux, etc. » Donc il y a évidemment, voilà. Et donc le blocus, et c'est ce qu'ont très bien compris les étudiants, c'est la façon de libérer tout le monde, et de libérer tout le monde de cette contrainte, et en même temps de réaliser cette utopie de la communauté étudiante retrouvée. Donc à partir de ces conditions politiques spécifiques et de ces ressorts sociologiques liés à la massification, etc., je pense qu'on a des éléments d'éclaircissement, mais il fallait avoir des étudiants qui sentaient cela et qui étaient en capacité de le faire. Lorsqu'à 60, ils décident qu'ils vont bloquer l'ensemble de l'université et qu'en plus, ils vont être majoritaires à la suite de cette décision, parce que ça s'est passé dans cet ordre-là, c'est assez audacieux. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont le discours d'accompagnement qui permet de légitimer l'action immédiatement, en disant « Ouais, mais on est comme vous, on n'est pas des militants, etc. Mais vous voyez bien, il se passe des trucs, il faut qu'on décide ce qu'on fait. » Et soit c'est fermé, soit c'est pas fermé. Et par un discours très simple, ils arrivent à convaincre qu'ils sont les égaux de ceux qui sont en face d'eux et qu'ils vont pouvoir décider ensemble quelque chose qui leur appartient. Mais il y a un deuxième niveau d'explication qui est un niveau plus politique, là, à nouveau, dans la mesure où, alors moi, j'ai pas creusé cette question-là, mais quand j'étais intervenu à une journée avec... sur le sujet, il y avait des gens de l'UNEF qui étaient là, qui étaient un peu agacés d'ailleurs parce qu'on racontait des gens qui se mobilisent en syndicat, c'est quoi ce truc, etc. Et alors qu'on leur voulait pas du tout de mal, hein, mais donc à un moment donné, dans le récit historique qui a été fait de l'histoire de l'UNEF, s'il s'agissait de cela, quelqu'un a parlé de la façon dont dans les motions de congrès de l'UNEF, donc tout ce discours le plus officiel, je crois que c'est dans les années 90, la décision a été prise de revenir à cette notion de communauté étudiante. Donc le terme que nous avions là aussi cru inventer pour qualifier ce qu'on voyait sous nos yeux d'un point de vue sociologique, en fait faisait partie de la réflexion politique des étudiants qui, au lieu de ce qui doit avoir des conséquences sur leur stratégie en termes d'unité syndicale, enfin des choses comme ça, mais il y avait bien l'idée que compte tenu de ce qu'était la jeunesse des années 90, il fallait revenir à ce qu'avait été la tradition de la grande UNEF, c'est-à-dire une forme de militantisme qui s'adresse à l'ensemble des étudiants et non pas à ceux qui sont déjà sensibilisés aux thèmes les plus militants. Voilà. Donc, c'est sans doute à la rencontre de ces deux facteurs que quelques entrepreneurs politiques plus avisés que d'autres, et qui d'ailleurs pour certains étaient passés par l'UNEF, même s'ils n'y étaient pas restés, ont su manier les mots qu'il fallait manier pour convaincre les autres en 2006.
Ouais, sur la question sur la presse, sur la construction un petit peu de ce mouvement Poitevin tout propre et innovant, donc pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, c'est surtout deux articles, enfin deux fois deux articles dans le Monde et dans Libération,
pour comprendre ces choses-là, il faut tenir, je crois, deux choses ensemble. Enfin, on croit tenir deux choses ensemble. À la fois les formes spécifiques de mobilisation de ce mouvement-là et à la fois les catégories d'entendement journalistique le jeu d'influence et de contre-influence qui se nouait autour de la question de la représentation médiatique du mouvement. Pour décrire très brièvement à partir des résultats de l'analyse qu'on a fait sur la presse, donc on a pris les journaux de cette période-là, quand je dis les journaux, c'est Le Figaro, Le Monde, Libération et La Nouvelle République. On a essayé de dépouiller ça de façon un peu systématique. Qu'est-ce qu'on voit ? Cette image de mouvement propre, innovant, le fameux modèle Poitevin, il apparaît juste après l'accord national qui s'est tenu à Poitiers et qui était couvert par les médias nationaux et qui a eu, par les hasards de la situation du mouvement, du déroulement du mouvement, le bonheur ou le malheur de se dérouler en même temps que les fameux incidents autour de la Sorbonne et du Quartier Latin. À tel point que cette opposition entre une sorte de mouvement violent, radical, les extrémistes de gauche qui brûlent les bouquins à la Sorbonne, les gentils étudiants poitevin qui font des barbecues, qui sont pacifiques, qui applaudissent comme ça, et qui sont presque copains avec les forces de l'ordre. Je n'invente rien, hein, c'est dans les articles. Cette opposition-là, elle était quasiment mise en scène dans une double page du journal Libération, pour ne pas le citer, où on voyait sur une page un casseur ou un extrémiste de gauche en cagoulé, tout noir, en train de jeter des pavés, et de l'autre côté, le fameux modèle Poitevin. Il y a eu une construction journalistique de cette affaire-là, et qui a ensuite continué, sauf dans Le Figaro, où Poitiers n'apparaît pratiquement pas. Ce qui apparaît dans Le Figaro, c'est Rennes plutôt, et comme un espèce de modèle repoussoir, les étudiants sont alcooliques, dirigés par quelqu'un qui a repris de justice, en fait. Dixit à un article d'Éric Zemmour, j'invente rien. Des trucs un peu passionnants dans Le Figaro. Ceci dit, c'est dit de façon absolument pas ironique. Donc ça a été une construction, et c'est une construction qui s'est maintenue. Il faut resituer ce double événement, les incidents du Quartier Latin et la fameuse AG au cours de laquelle les Poitevins et le mouvement Poitevin quittent la coordination nationale. Ça a renforcé l'image de pureté perçue par les journalistes. Cet événement-là intervient quelque temps avant le retournement un peu de l'opinion en faveur de ce mouvement et une lecture plus politique des conséquences du succès très probable de ce mouvement-là en termes de concurrence à droite au poste de futur président candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu un contexte, il y a eu une construction, quoi. Et c'est une construction. Ceci dit, juste une toute petite parenthèse pour revenir sur cette affaire du bloc de l'Ouest. Alors, il y a sans doute des raisons. C'est juste pour ajouter peut-être une variable supplémentaire, il faut se méfier parce que c'est une construction journalistique aussi, cette affaire-là. Ça apparaît très clairement. Il y aurait un front commun qui partirait de Rennes et qui irait jusqu'à Toulouse, quoi. Il y aurait un bloc de l'Ouest des universités mobilisées. Il y a sans doute des raisons à la fois sociales et politiques à cette affaire-là. Hein ? Oui, mais je fais très vite. Il faut bien le repérer. Il faut le repérer à tel point que parfois on les reprend malgré soi. Moi, je pense à un article qui était paru un encadré qui était paru au moment des grandes mobilisations de la fin du mouvement, où on avait quasiment affaire à la théorie des climats par la part des journalistes, où par exemple, les journalistes expliquaient que à Lille, il y avait eu des affrontements violents parce que Lille, c'est le Nord, c'est les classes populaires, ça s'affronte, ça manifeste comme ça à Lille, quoi. En se fritant avec les forces de l'ordre. Et à Orléans, c'est pas du tout pareil. Il y a une grosse mobilisation, mais on manifeste en famille. Il y a un côté catho, quoi, à Orléans. Bon, voilà. Donc, il faut se méfier de ne pas reprendre ces choses-là. Pardon d'avoir été trop.
Une dernière question ici, et puis, voilà, question courte et réponse courte, s'il vous plaît.
Oui, je vais essayer de faire court. En fait, je ne voudrais pas revenir sur l'analyse du mouvement en soi, mais juste à partir de ça, revenir en fait sur le thème du sujet de départ, qui était le lien entre l'utopie du mouvement étudiant et donc le mouvement anti-CPE à Poitiers. Et en fait, au vu d'analyse qui est faite, et que même moi, ce que j'en pense et ce que j'ai vécu, il me semble en fait que le mouvement Poitevin était très très loin d'être un mouvement utopiste comparé à ce qui a pu se passer dans notre fac. Et je pense que c'était vraiment un des mouvements, comme il a été dit dans les derniers journaux, mis en avant comme étant pur, comme étant une forme de contestation vraiment intégrée en fait, réintégrer une nouvelle forme de contestation au système, contestation qui en fait ne gêne pas, mais il représente aussi une force politique bien que cachée, car c'est un apolitisme quand même très bien caché, je dirais. Mais c'est quelque chose qui peut s'être traduit, je dirais, par... Il n'y a pas que la non-violence, hein, je dirais, mais rien que sur le fait qu'à la fin, Poitiers est une des premières facs à quitter le mouvement à la fin du retrait du CPE. Il n'y a pas eu de pérennité de militants, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi pour ça que 2 ans après, pendant les rues, Poitiers était une des dernières à se lancer. C'était aussi un mouvement complètement différent. Et pendant, par exemple, à l'élection de Sarkozy, il n'y a rien eu qui s'est passé derrière. C'est tout un truc qui dit on a fait notre mouvement, c'était un mouvement, c'était beau, mais il faut savoir rester dans une certaine logique quand même d'intégration au système. Il ne fallait pas aller trop loin.
Donc je pense que tu évoques, pour mettre des mots sur les choses, le rôle du mouvement des jeunes socialistes, qui en effet a donné à ce mouvement Poitevin aussi sa particularité en 2006, et le mouvement des jeunes socialistes qui a été plus embarrassé lorsque est venue en débat la question de la LRU. Donc, bien sûr. Donc, alors, il n'était pas, cela étant dit, il n'était pas utopiste au sens où il n'était pas très libertaire, il n'était pas producteur de pratiques en rupture avec l'ordre, etc. Il n'empêche que même dans ce cas-là, nous, ce qui nous paraissait intéressant et ce qu'on défend, c'est que dans le style de mobilisation étudiante et dans la façon dont ils se sont mobilisés, on peut discerner des éléments de rupture avec l'ordre social, en tout cas dans les ressorts de la mobilisation, ce qui ne veut pas dire que ceux qui étaient à sa tête étaient soit aujourd'hui en rupture totale avec l'ordre social et politique. On pourrait en débattre plus longuement, on n'a pas le droit de réponse longue. Ça dépend de la définition qu'on donne à l'utopie. Voilà. On a essayé d'élargir un peu cette définition, et ce n'est pas ni pour qualifier, ni pour disqualifier le mouvement de 2006, ni celui d'aujourd'hui.
Bien, merci à tous. On se retrouve dans 10 minutes pile pour... le troisième sujet de cette journée sur la contre-culture.
Thank you. présidente.